Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 17e saison de Podcast de la Cellule. Aujourd'hui, nous sommes en grand nombre, en grand public, pour accueillir Roberto Fraga.
Roberto, bonjour.
Et Roberto, aujourd'hui, il va nous présenter un jeu qui s'appelle Captain Sonar. Donc nous sommes avec Flavie à la pêche.
17 ans, tu m'as collé un coup de vieux.
C'est incroyable, mais oui, c'est la 17e saison. Nous sommes avec Antoine Foin qui nous a rejoint cette saison. Ça va la pêche.
Salut, ça va.
Voilà, animateur de la Citadelle qu'on ne présente plus. Flavie, vice-productrice, présidente de la cellule qu'on ne présente plus. Et Roberto Fraga qu'on va présenter quand même.
Même si on ne le présente plus en vrai.
Voilà, auteur de jeux de société, dont le plus célèbre est, tu nous le disais tout à l'heure.
Celui qui se vend le plus.
Oui,
celui le
qui...
plus célèbre.
Alors, je sais pas, ouais, c'est Eureka.
Docteur Eureka, chez Blue Orange.
Ouais, c'est ça. Mm. Je vais juste. T'as le jaune, hein, micro jaune, on est d'accord.
Le point commun entre Docteur Eureka et Captain Sonar, ce sont les.
Les boules.
Les non, tubes.
Je... J'en sais rien.
Ce sont les tubes.
Les tubes, ah oui. Parce que
les c'est... tubes dans Storpie et les tubes pour les billes.
Ah. D'accord. Ok, alors qu'est-ce que c'est Captain Sonar? Tu peux nous le présenter rapidement?
Donc, Captain Sonar, c'est un jeu par équipe. Qui a été publié en 2016 par Matago, que j'ai créé avec un ami qu'il ne faut pas oublier, le lieutenant Johan Lemonnier.
Oui.
Et du coup, c'est un jeu qui peut se jouer. Il faut imaginer le combat de sous-marin. Vous êtes à bord d'un sous-marin, en 5 minutes, vous plongez et vous vivez l'expérience du combat de sous-marin. Donc c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 8, mais de 2 à 6 au tour par tour simplement. Et ensuite de 6, 7 et 8 en simultané.
En temps réel.
Ça, j'ai très envie. Alors, ça, en plus, on a le nombre de joueurs qu'il faut ce soir.
Ah, c'est ça. C'est-à-dire que vous entendez, il y a beaucoup de bruit derrière nous. C'est parce qu'en fait, nous sommes avec un grand nombre de personnes. On va faire plusieurs équipages, d'après ce que j'ai compris. Des équipages de 4 personnes, c'est ça?
On est plus de 8. Donc,
Oui, mais on va tourner.
Donc, il y aura des morts, donc du coup.
Non, on va faire un tournoi, je pense.
C'est comme une vraie série, en fait.
C'est quoi ce délire? Donc, on fait des tournois de ce jeu, je ne comprends pas.
Vas-y, bah, des équipes de 4, non? On est combien? On est 12.
Le dispositif, comment ça se passe?
Ça s'est déjà fait, des tournois. Donc, on a déjà même fait des parties à 2 contre 1, 2 sous-marins contre 1 sous-marin.
Ah ouais, ouais, putain, c'est cool. Donc, expliquez le dispositif quand même, rapidement, pour nos éditeurs auditrices qui n'aimeraient pas du tout.
Roberto.
Donc, il faut une table, immense. Pour être à l'aise, une table immense, ou alors on joue vraiment serré comme on l'était dans les U-boats. Mais du coup, on va être comme une bataille navale en fait.
Ouais.
Il va y avoir un grand paravent qui va séparer les deux équipages. Ouais. Et d'un côté, on va avoir 4 membres d'équipage, avec au centre le capitaine. À sa droite ou à sa gauche, suivant la disposition, il y aura le détecteur, celui qui est chargé de trouver la position de l'ennemi.
D'accord.
Il y aura ensuite à côté, moi je l'appelle le second, c'est le rôle le plus simple. Le jeu, c'est à partir de 14 ans, mais ce rôle-là, franchement, à partir de 7 ans, on peut le faire. C'est juste remplir les jauges d'énergie, torpilles, drones, etc. Et ensuite, le dernier rôle, c'est le rôle du mécanicien. C'est le MacGyver de l'équipe, c'est celui qui doit tout réparer, car il faut savoir que le sous-marin, quand il se déplace, il emmagasine de l'énergie, mais en même temps, il a des avaries qui se produisent à la machine.
D'accord.
À chaque déplacement, il y a une avarie. Donc ça veut dire qu'il faut réparer sans arrêt, non-stop. Et donc c'est un jeu qui est très utilisé en team building. Donc en face de ces quatre personnes, il y a aussi
quatre autres personnes,
les adversaires. Et donc il faut savoir que c'est un jeu qui est utilisé en team building parce que du coup c'est un jeu qui aide les gens à apprendre à prendre des décisions. Le capitaine, ça va être quelqu'un qui doit pouvoir gérer plusieurs voies, celle de son second, du mécano, il faut qu'il écoute en face, le détecteur. Il y a un rôle, il y a vraiment 4 rôles vraiment différents. Il y en a pour tous. Celui qui a envie d'être tranquille, ben il se met comme second. Donc ça, c'est très complet.
Alors pour la petite histoire, on s'est rencontrés au Fige de Cannes et ce jour-là, on s'était rencontrés au Off et ce jour-là, tu présentais un Captain Sonar, sans doute un proto, j'imagine, je ne sais plus, et j'avais trouvé que c'était le bordel. C'est-à-dire tout le monde se parle, on sur le dessus, il y en a un qui essaye de faire la liaison et on sent qu'il y a une espèce de tension entre les deux équipes. Moi, c'est tout ce que je sais du jeu. Flavie, t'as déjà joué à Captain Sonar?
Pas du tout. J'ai appris qu'on allait le faire, je me suis arrangée pour rien en savoir, pour être totalement blanche comme neige.
Même
pour
chose,
ce podcast.
Tu m'as offert le jeu il y a 2 ans. On s'était dit rendez-vous l'année prochaine pour un
je
podcast.
Je te l'ai offert il y a 2 ans et tu n'y as pas joué encore.
Et non, parce que je voulais... Bah, voilà. Attends, non, parce qu'on s'était promis qu'on y jouerait ensemble la première fois pour faire ce podcast. Donc, j'ai tenu parole. J'avoue que j'ai un petit peu fureté autour de la boîte quand même. Mais voilà, je voulais vraiment être vierge, de ne pas savoir du tout de quoi il s'agissait. Et autour de la table, on a aussi Antoine. Et Antoine, lui, il a une autre expérience du jeu, c'est que c'est un expert, je pense, on peut le dire.
pas un expert, mais j'ai beaucoup joué, ouais. Non, bah, j'ai joué depuis le début, depuis sa sortie, à toutes les extensions... Et je regardais un peu dans mes vieux mails. Effectivement, oui, j'ai les extensions Chicago, Foxtrot, tout ça.
C'est quoi ton rôle préféré ?
Bah, moi, j'adore le sonar, mais après, c'est capitaine, quoi. Et après, ça dépend. Faut en parler parce que dans les extensions, les rôles s'améliorent un petit peu. Enfin,
Et tu m'as dit qu'il y avait un mode histoire aussi.
Et le mode histoire, c'est la deuxième upgrade.
En fait, la première extension, ça apporte des armes supplémentaires.
D'accord.
Qu'on peut embarquer, qu'on peut changer, on débarque une arme, on en embarque une autre. Et ensuite, la deuxième extension, c'est la plus complète, qui s'appelle Opération Dragon, où on vit carrément une campagne. On a, je crois que c'est 7 cartes. On joue la 1, après la 2, la 3, la 4. Et toutes les
missions secondaires aussi.
Et les missions secondaires. Il y a même des membres d'équipage particuliers.
Il y a des histoires d'amour entre les membres d'équipage.
Ouais, mais honnêtement, rien qu'avec le jeu de base. Dans le jeu de base, il y a 5 cartes déjà. On peut jouer sous la banquise. Faut faire attention à ne pas faire surface en pétant le...
Faut jouer au pôle sud, du coup.
Ouais. Et il faut faire dans la banquise, il faut faire surface dans les trous. Parce que la dernière fois que j'ai joué, j'ai fait surface en paniquant n'importe où. Et donc, c'était la dernière avariée. Et donc, j'ai coulé en pétant la glace.
pourquoi c'est le bordel, le jeu ? C'est parce que, effectivement, c'est temps réel. Et du coup, on n'attend pas le tour de l'autre équipe. Ouais. Donc... Il faut que le capitaine donne une direction, un ordre, que tout le monde suive ses instructions, c'est-à-dire les coches à faire, les avaries qui vont se produire et tout. Mais plus on résout ces choses-là rapidement, et ben plus on joue, plus on se déplace, et donc on se déplace plus vite que les autres. Et c'est pour ça que ça commence à être cacophonique.
D'accord.
C'est qu'en fait, il faut... on n'a pas dit, le but, c'est d'abattre le sous-marin adverse. Quand
même. Ah, d'accord. Ok.
Oui, quand même. Ouais. C'est pas
déjà, le trouver.
On n'est pas là pour s'amuser.
Puis l'abattre.
On est pendant la... j'ai plus mes mots. On est pendant la guerre contre les Russes et nous sommes les Américains, ou l'inverse.
C'est ça. Et la guerre froide.
La guerre froide.
C'est ça que tu cherchais ? Guerre froide ?
Ouais, guerre
toujours
froide.
Rapport banquise, tout ça, briser la glace.
Ouais, vrai. Mais on pourrait projeter ça actuellement, mais ce serait un peu plus triste.
Ça serait un peu plus triste, peut-être, oui, effectivement. Donc voilà. Et ben, c'est très intéressant. Tout ça, par contre, je n'arrive absolument pas à me représenter les mécaniques de ce jeu. C'est-à-dire que je vois bien la promesse, je vois bien l'immersion.
Je pense que c'est important de dire que ça se joue sur des petites fiches qui sont toutes différentes pour chaque rôle, et qu'on joue avec des feux de Velleda. Ouais. On écrit dessus, on efface, vous verrez, il y a des mécaniques. C'est très ludique, c'est très
rigolo.
Quand
on a créé le jeu, ce qu'on voulait, c'est que le matériel soit très simple, qu'il n'y a pas de dés, pas de cartes. Il y a juste, chaque joueur a une carte genre format A4 plastifié et un feutre effaçable. Et c'est tout. Et le paravent, et ça suffit.
Et c'est incroyable. Alors, il y a un coût quand même d'entrée au jeu. Enfin, moi, j'ai jamais joué en dessous de 8.
Si, tu peux jouer facilement on peut. À 6 parce que quand t'es capitaine, tu peux cumuler.
Je trouve que l'expérience, l'essence même du jeu, c'est à 8. Quoi.
Oui, bien
c'est
sûr.
Incroyable. Ouais. Ce jeu, c'est un jeu.
Et
on va voir ça.
Et on peut même jouer, mais ça, c'est de la science-fiction. On peut même jouer à 5 contre 5. On a testé pour plaisanter avec l'éditeur une fois un rôle de cuistot qui avait besoin, il avait besoin d'énergie pour ses plaques. Et donc, et l'équipage, quand il avait fait un bon repas, et du coup, il remplissait les jauges plus rapidement. Et par exemple, il disait, j'ai une paella à faire, il me faudrait un rouge et deux jaunes. Et c'était un peu le foutoir. Donc,
Excellent. Bon, écoute, on va tester tout ça et puis on fera des retours.
Ce sera plus clair avec le matériel.
J'avoue, c'est très, très compliqué. Merci beaucoup. Allez, on y va.
À tout de suite.
Bonjour.
Donc voilà, fin des parties de Captain Sonar. On se retrouve avec Roberto Fraga, avec Antoine Foin, avec Florence et avec Flavie pour débriefer en fait les différentes parties qui ont eu lieu. La première chose qu'il va falloir faire et qui va être un peu complexe, je vais m'y coller, c'est de décrire le dispositif.
C'est absolument génial.
Alors déjà, est-ce qu'on peut faire un tour de table rapidement ? Ta sensation de sortir de tout ça ?
J'ai kiffé. Il y a un coup d'entrée, on en parlera, Flavie. Mais une fois que tu l'as passé, en fait, tu rentres dedans Et plus le coup de, plus tu l'as payé, le coup d'entrée, plus tu comprends comment jouer, plus c'est calme et silencieux après.
Exactement. J'ai trouvé que la troisième partie que vous aviez faite était... Parce que moi, j'ai participé aux deux premières et la troisième, je suis sorti pour prendre l'air parce que vraiment, j'étais sous pression et en immersion et sous pression. C'est normal, on est dans des sous-marins. Mais effectivement, je trouvais que la troisième partie était beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus calibrée. Tactique, dit Florence, et effectivement beaucoup plus... Je pense que ça commençait à ressembler à une partie de Captain Sonar un peu plus experte, on va dire, par rapport à celle qu'on a faite au début. Antoine, toi, ça ressemblait à une partie prototypique de Captain Sonar.
Ouais, je pense. Hein.
Roberto, content ? Ça ressemblait à du Captain Sonar, pas de doute.
Bon, oui, tout à fait. Forcément, les gens qui jouent la première fois, bah, il s'énerve un peu et tout, mais c'est juste que voilà, il faut se mettre dans le bain, faut en faire une première et après.
Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de simulation d'énervement, c'est-à-dire que les gens étaient dans le côté, on est dans un sous-marin, je suis un capitaine, je crie vite, machin, me donne. Mais c'était de la simulation.
On avait aussi un petit peu bu avant. Je dois avouer qu'au fur et à mesure que mon vin blanc descendait, j'étais plus calme.
Il descendait, c'est normal à bord du sous-marin. il descendait avec toi.
Donc, alors, comment décrire ce dispositif ? Moi, je le décrirais comme ça. Vous m'arrêtez si. En fait, on a donc une table qui est séparée en deux, avec quatre personnes qui, de chaque côté d'un paravent, effectuent des mini-jeux. En fait, on a quatre personnes qui effectuent des mini-jeux différents en fonction de leur rôle. Le capitaine, il fait un snake. Vous connaissez tous ce mécanisme de...
Il peut pas se mordre la queue et il peut pas traverser son propre trait.
On est donc sur une... Chacun est donc sur une carte parcourue d'îles et on va devoir faire un trajet avec son sous-marin sans passer par ces îles. Sinon, on se crache, c'est la catastrophe. Mais le capitaine doit effectivement éviter de se mordre la queue. C'est-à-dire s'il dit nord, par exemple sud...
Il peut pas faire nord-sud, il peut pas.
Il peut pas faire nord-sud, parce qu'il...
Comme dans Snake. Ouais.
Bah, comme dans Snake,
ça
voilà.
Ça explique certaines choses qu'on a vécues quand t'étais capitaine.
Alors moi, je suis... Voilà, bon, on va tout de suite poser...
Capitaine
Tu t'es mordu la queue ?
Moi, je suis nul à Captain Sonar, voilà, mais je comprends l'expérience. Donc, on a un premier élément, un mini-jeu avec le capitaine qui fait du snake. Donc, il ne peut pas repasser, ce qui lui met une pression déjà. C'est-à-dire que, mine de rien, il ne peut pas marcher sur les îles, il ne peut pas se remordre. Donc, un personnage, le capitaine, déjà sous pression. Ensuite, on a un autre mini-jeu très intéressant qui est celui du navigateur. Le navigateur, lui, il écoute le capitaine de l'équipe adverse donner ses ordres et jouer à son petit snake. Et lui, il doit noter, sachant qu'il ne sait pas d'où l'autre capitaine est parti, il doit noter les directions que emprunte l'autre sous-marin.
Sur une feuille calque,
voilà.
Enfin sur un plastique transparent, ce qui permet de la déplacer sur la carte pour voir ce qui, au fil du temps, ce qui pourrait correspondre comme tracé. Quoi.
Et voilà, plutôt que c'est le détecteur.
C'est le sonar.
Sonar.
J'ai dit quoi, c'est dit quoi?
T'as dit navigateur, c'est le sonar. Le quoi, c'est le...
Et d'ailleurs, un petit aparté.
Vas-y, non, mais
en
attends.
En fait, dans le jeu, il y a plusieurs cartes.
Ouais.
On a joué sur la carte alpha, c'est la carte où il y a le plus d'îles. Après, il y a la banquise.
D'accord.
Il y a aussi des cartes où il y a moins d'îles. En fait, moins il y a d'îles, plus c'est difficile de trouver l'ennemi.
Mmh.
C'est logique.
D'accord, ouais. Ok. Bah oui, parce que plus il y a d'îles, plus la personne qui fait le calque. Il y a pour le capitaine, il y a des contraintes, donc des formes géométriques qui se retrouvent et qui laissent à deviner le contour des îles, en fait. C'est ça qu'il faut. Donc, une fois qu'on a dit, tiens, mais c'est marrant, pourquoi il a fait un espèce de point d'interrogation là, dans son schéma de navigation, on se dit, ah, c'était pour éviter cette île qui a justement une forme de point d'interrogation. Et donc, c'est comme ça qu'on peut identifier le lieu, entre autres. Hein, c'est comme ça qu'on peut identifier, entre autres, le lieu où se trouve le sous-marin adverse pour le torpiller. Florence, si tu veux parler, il faut que tu parles.
Tu ne peux pas traverser une île, tu je sais plus les mots.
Louvoine tourne autour.
Tu tournes autour et tu dis c'est pas possible, elle a pas pu passer par ce chemin-là et tout ça. Donc tu fais des différents scénarios.
Exactement, c'est exactement ça. Donc ça c'est vraiment un élément qu'il faut bien comprendre, c'est que donc avec son calque, il dessine le chemin que les autres ont parcouru. Le comment t'as dit le sonar, c'est ça?
Pas ouais, ou détecteur.
Ouais, détecteur. Ouais.
Voilà, c'est ça. Qu'on appelle les oreilles d'or dans la marine.
D'accord.
Ils sont capables de dissocier tous les bruits.
Celui qui écoute.
C'est dans le film là avec.
Oui. En fait, ils sont.
C'est quoi le loup?
Le chant du loup.
Le chant du loup.
Ils ont des cours et ils sont capables d'analyser tous les sons, te dire si c'est une hélice à trois pales, un cargo de tel type,
un requin à trois jambes,
un destroyer, un machin, et ils ont une ouïe parfaite.
Et c'est marrant parce que quand on a
Florence.
Vu, on parlait du chant du loup, on a vu le film. Avec Roberto et moi, on regardait le film et on se dit, on est dans Captain Sonar là. Le chant du loup, ils sont en train de chercher l'ennemi.
C'est plus calme.
Et tout. Ah ouais, mais à un moment, film. Non, à un
ils
moment,
ils ont dépassé
chaud,
la
chaud.
Quatrième partie.
Ouais. Non, à un moment, c'est chaud et c'est, tu te croirais là quand t'es en train de courser ton ennemi et tout, c'est génial.
Alors ça, c'est un truc que je vais aborder plus tard. Mais je trouve qu'on est très très proche de ce que nous on appelle en tant que
la synesthésie.
Alors la convergence.
La convergence même
carrément
ouais.
En fait. Mais on en reparlera. Donc du coup premier rôle on a dit un mini snake. Deuxième rôle celui qui est à côté le sonar. Lui il est dans l'écoute de l'équipe adverse pour essayer de tracer, de trouver le lieu où il se trouve. Ensuite il y a un autre mini jeu qui est celui du mécano qui est très très compliqué. Qui en fait à chaque fois que le commandant donne une direction, ça va entraîner des avaries sur le bateau. Et donc lui, il est dans un espèce de jeu dans lequel il doit cocher des cases de couleur. Dès qu'une case de couleur est cochée, ça va interdire certaines actions à l'équipe tout entière. Donc lui, il est en train de dire « Ah oui, mais si je coche une case jaune, mon Dieu, on va plus pouvoir faire ça. Et si je coche une case rouge, on aura peut-être besoin d'une torpille. » Voilà. Et donc lui, il est en panique, il est sous pression parce que lui, ce qu'il doit faire, c'est chaque fois qu'il y a une direction qui est faite, cocher un truc. Et donc, il n'y a jamais de bonne coche. Lui, il est carrément dans le dilemme, en permanence.
Oui, mais c'est là le rôle du capitaine de coacher tout le monde. Il faut qu'il coache son matelot pour dire « tu coches pas telle couleur parce que j'en ai besoin ». Il doit checker le navigateur, non, comment on dit le
sonar.
Le sonar, là, le surveiller.
Le surveiller.
Et doit dire à l'autre que tu vas dire peut-être tout à l'heure, celui qui va cocher les armes et tout. Donc, il doit checker tout le monde.
Exactement.
Et le rôle de capitaine n'est pas évident.
Et le dernier rôle qui est le plus facile, ce que tu disais Roberto, c'est que c'est pour un rôle pour des enfants, c'est donc ce rôle de, à chaque fois qu'on fait un déplacement, que le capitaine dit on va là, eh bien on a le droit de charger soit les torpilles,
une mine,
etc.
Un drone.
Et quand on a chargé, il y a une jauge, voilà, il y a par exemple pour avoir une mine, il faut 3 cases, je crois. Une fois qu'on a fait 3 déplacements, on a le droit de cocher les 3 cases de la mine et ça veut dire que la mine est activée, on a le droit de s'en servir. Donc ça, c'est un autre mini-jeu qui est beaucoup plus facile en réalité puisqu'il s'agit de cocher. Mais, et c'est là que c'est intéressant et que ce rôle nous permet d'arriver au jeu en lui-même et à la mécanique du jeu en lui-même, c'est qu'il se situe, ce rôle-là, entre le capitaine qui effectue donc ses directions et qui donne ses directions et le mécano qui lui doit cocher les fameux trucs. Donc il a un rôle de liaison entre les deux parce qu'en fait il est très important que le mécano et le capitaine communiquent, sauf qu'entre les deux il y a un joueur qui est justement celui qui coche les cases de les jauges d'activation des mines, du sonar, du drone,
du silence, torpille et du silence.
Voilà, alors regardez, et donc ces quatre éléments ils interagissent avec les mini-jeux, le silence. Eh bien, il va nous permettre de faire un déplacement invisible. Je simplifie, hein, Roberto, hein, tu m'excuses. Donc, il fait un déplacement invisible, ce qui va compliquer le rôle de sonar adverse. Puisqu'il y a un déplacement invisible, donc il doit l'anticiper. La torpille, évidemment, elle va servir à aller faire des blessures au sous-marin adverse. Et donc, du coup, elle va aller embêter là carrément tout l'équipage. Le drone, qu'est-ce qu'il fait ? Tu me rappelles, Antoine, je ne me souviens plus.
Le drone, tu demandes une zone, c'est ça ?
Tu interroges sur une zone. Si tu as un doute, ton détecteur a un doute sur 2 zones.
La carte est divisée en 9 zones.
En 9 zones. Tu interroges, est-ce que vous êtes en zone, par exemple, 5 ? Et l'ennemi répond oui ou non. Et pas, l'ennemi ne donne pas carrément sa zone comme ça s'est passé au début. C'était une erreur. C'était de l'espionnage.
Ouais, exactement. On doit d'abord annoncer une zone. Je pense que vous êtes en zone 4 et l'autre dire oui ou non. Alors que la première fois, il y a eu un drone qui a été lancé et l'opposition a dit directement sa zone. Ce qu'il ne faut évidemment pas faire. Très bien. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'on active grâce à ce rôle qui a aussi un rôle de liaison donc, entre le capitaine et le mécano. Et là, on arrive au cœur du jeu, c'est la communication entre les mini-jeux. C'est-à-dire que chacun est dans son mini-jeu et sous pression dans son mini-jeu. Chacun a l'impression que l'urgence, c'est son mini-jeu à lui. Et en fait, non. Il faut réussir à communiquer pour faire un maximum. Enfin, c'est l'équipe qui communique la mieux, en fait, et va être capable de résoudre tous les mini-jeux et tous les puzzles en même temps, et donc être capable de gagner.
Le chef d'orchestre, c'est le capitaine. Voilà, le chef d'orchestre, c'est le capitaine.
Bah, c'est le rôle qu'on lui donne.
Oui.
Mais c'est pas forcément lui, moi, je trouve. Je trouve que celui qui est au milieu, qui coche les cases et qui n'a pas un rôle si central que ça, a en fait un rôle assez central et c'est vraiment le second, ce qu'on appelle le second en navigation, je pense.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que je pense qu'au début, quand on commence à jouer au jeu, on a l'impression que le capitaine a beaucoup, beaucoup de responsabilités, ce qui est le cas. Hein. Il y a beaucoup de coaching, quoi. Mais au fil de l'expérience, et quand toute l'équipe commence justement à prendre du galon, je pense que le second peut commencer à prendre en main certaines choses, à avoir des codes, à avoir des façons de percevoir comment le capitaine joue le jeu, comment le mécanicien, ce que fait le mécanicien, puisqu'il a toujours un regard sur ce qu'il coche. Et il peut soulager justement la charge cognitive du capitaine.
Oui, ça peut
c'est
être un
rôle,
homme de liaison,
moi,
oui.
Exactement.
Le second.
Ouais. Flavie, tu voulais intervenir ?
Alors moi, je voudrais parler, parce que j'ai fait un petit retour avant de descendre sur avec des personnes qui ont justement joué le rôle du second, en fait.
Ouais.
Notamment sur le début de la partie, en fait. Parce que je m'interrogeais sur comment tu fais pour comprendre comment fonctionne le jeu. Et en fait, il s'avère que les gens qui ont commencé comme second, en fait, et qui n'avaient jamais joué au jeu, ont eu ensuite une meilleure approche du jeu et savaient mieux comment gérer la communication dans le jeu. Mmh. Donc, en fait, le meilleur point pour pouvoir apprendre, pour pouvoir prendre en main le jeu, c'était à cet endroit-là. D'ailleurs, la personne, une des personnes qui a commencé par justement ce rôle-là, en fait, m'a dit, ben, au début, j'ai eu l'impression de m'embêter, mais du coup, j'ai pu voir tout ce qui se passait bien ou mal, en fait, quand les autres faisaient les choses. Et ensuite, cette personne est devenue capitaine. Et là, elle a bien géré en tant que capitaine parce que, en fait, elle voyait en fait comment faire les choses. Alors que quand tu démarres en tant que capitaine ou mécano, comme tu as énormément de choses à découvrir, du coup, tu repères moins en fait les mini-jeux des autres et du coup, c'est plus compliqué ensuite de prendre en main. Et du coup, c'est intéressant parce que, en fait, on pourrait croire finalement, quand on le regarde, que c'est un jeu où c'est moins intéressant que les autres. Mais au final, il permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, comme j'ai pu le voir, il y a des personnes que j'ai trouvées plus expertes qui connaissaient bien le jeu, qui ont pris ce rôle en fait de lieutenant en fait en main. Mmh. Et en fait, cela servait juste, en fait, ça leur permettait de regarder, ils bossaient en fait en accord avec le mécano. Ce que j'ai fait moi quand j'ai refait mécano après, j'ai bossé avec le lieutenant pour que en fait elle me disait coche pas ça, parce qu'elle faisait en fait la liaison plus facile avec le capitaine qui du coup avait plus de temps pour parler avec le détecteur.
Ouais.
Or, quand tu démarres, c'est pas que quand tu démarres en tant que capitaine, comme ça a pu t'arriver, ou moi, après avoir fait mécano.
Moi, Rome.
Ouais, Romaric a démarré.
Moi, j'ai commencé par les pires rôles, en fait. Voilà. J'ai commencé capitaine, qui a un rôle extrême de surcharge cognitive énorme, et mécano,
et
qui
moi,
a un
j'ai
rôle
fait l'inverse.
De dilemme énorme.
Et j'ai fait l'inverse, et du coup, en fait, j'ai fait mécano et capitaine, qui sont les deux rôles de surcharge, et donc moi, j'avais pris beaucoup plus moins de recul en fait sur la situation. C'est pour ça qu'ensuite moi j'ai refait un mécano parce que j'avais plus compris de trucs après capitaine. Mmh. Mais du coup il y a une sorte de gradation et finalement une sorte de binôme qui s'installe, une série de binômes. T'as le binôme en fait, les binômes qui se suivent. T'as le binôme au final mécano lieutenant, lieutenant capitaine et capitaine détecteur. Et finalement le détecteur et le mécano ont peu de liens, mais du coup se rassemblent en fait en passant par les deux autres.
Mmh, très bien. Ouais.
Mais c'est bien ce que tu dis en fait. T'as raison de dire ça, Flavie, parce que il y a plein de gens il y a quelques personnes qui disent souvent le rôle de second est pas intéressant. Et je leur dis exactement ce que tu dis.
Non, moi je suis
faut faire plus d'une partie pour se rendre compte que c'est un rôle
pivot
de...
en fait.
Ouais, mais c'est un rôle d'approche en fait.
En fait, c'est excellent. C'est-à-dire que c'est à la fois, moi je trouve ça génial. C'est à la fois un rôle pour rentrer dans le jeu facilement, mais c'est aussi un rôle, une fois que tu l'as acquis, qui devient passionnant parce que justement, rôle de liaison et tout. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu, c'est-à-dire un rôle où c'est en même temps, c'est sans doute le rôle le plus simple à aborder quand tu commences, mais en même temps, une fois que tu masters, une fois que tu maîtrises le truc, c'est le rôle, peut-être un des rôles les plus intéressants au final.
Mais c'est pour ça qu'il y a des enfants, Florence, qui veulent... qui veulent venir jouer avec nous parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose à vivre. Mmh. Et on les met en second, si tu veux, à cocher les cases. Et ils apprennent, mais ils sont dans l'ambiance, tu vois. Et ils adorent.
Ouais.
Et après, ils vont changer de rôle peut-être plus tard ou tout de suite après, comme on l'a vécu, là. Mmh. Mais c'est un rôle qui est important pour une approche.
Ouais.
C'est pour ça que les emplacements, c'est super important.
Oui.
Quand quelqu'un a dit tout à l'heure pourquoi le second, il n'est pas à droite, ben non, on l'a mis là parce qu'il est entre les deux rôles qui doivent communiquer et il les aide, il fait
on
le lien.
On a voulu changer
et
plusieurs fois
les rôles. Il n'est pas isolé. Si on l'avait mis à droite, complètement, ce serait ridicule.
Et je me souviens que j'avais eu des critiques, moi, dans certains de mes jeux de rôle dans lesquels je mettais les positions que les joueurs devaient avoir à la table. On s'était moqué de moi en disant mais c'est évident, nanana. Et là, ce jeu, il montre et démontre que les positions autour de la table, une approche structurelle en fait de la partie, les rôles et la manière dont par exemple un meneur et ses joueurs vont se poser pour le jeu de rôle, et là ici dont les joueurs entre eux, en fonction de leur rôle, tu vois, si le magicien est à côté du guerrier au cours d'une table de jeu de rôle, ça va pas faire la même synergie que si c'est le voleur qui est à côté du magicien. Et ça on l'a maintenu, on continue à le maintenir, et on se moque encore de nous lorsqu'on le dit, mais la Captain Sonar le démontre, il y a vraiment un rôle important. Si tu si t'inverses deux place,
bah,
ça n'a
plus ça. Il faut qu'en face, ça soit pareil. Il faut, il faut que le capitaine et le détecteur ils soient croisés, en fait. Parce que sinon, s'il est trop loin, bah, pour l'écoute, c'est moins bien. Donc, en face du capitaine, il y a le capitaine. En face du détecteur, il y a le détecteur adverse. Donc, c'est comme ça.
Exact. C'est génial. Petit point de tension, c'est les stops. En termes de mécanique, c'est le truc où j'ai trouvé qu'il y avait le plus de tension pendant les parties, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand alors d'abord, quand est-ce qu'on dit stop, Roberto, dans le jeu?
Bah, dès qu'on pense qu'on peut activer un système.
Ah,
donc
d'accord.
D'abord on doit se renseigner, on doit demander si c'est chargé au second. S'il n'y a pas de voyant correspondant qui est coché chez le mécanicien, on demande d'abord et après on lève le point, c'est précisé dans la règle, et on dit stop. Et dès qu'on dit stop, les autres s'arrêtent immédiatement de jouer, de parler, ils attendent, et là on dit ce que c'est.
Tire donc la règle, c'est pas stop, est-ce que c'est ok? Non, c'est
non.
Tu demandes d'abord est-ce que c'est ok, ensuite tu dis stop, et là tu annonces l'action que tu vas faire. Juste pour dernière question, pendant le stop, est-ce que les adversaires ont le droit de se déplacer et de bouger?
Non.
Non, c'est silence radio, on est d'accord, tout le monde doit se taire à ce moment-là.
Bon, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure quelques secondes. C'est pas...
Ah mais non, mais moi je trouve ça génial. Bah, ce côté justement foutraque, bordel, machin et silence, il y a quelque chose de l'ordre dans les sous-marins, c'est ça qu'on imagine, tu vois. Le moment où tout le monde dit silence et où il faut vraiment se taire parce que sinon les adversaires peuvent nous détecter, je trouve que le jeu aussi, là, de ce point de vue et dans cette mécanique-là, les mules...
Ouais, il y a un côté extrêmement cinématographique, en fait,
alors,
dans le jeu, au final. Alors... je me rappelle plus du nom, mais il y a un film des années 90 où avec Harrison Ford,
Octobre
Rouge. Mais moi, j'ai pas arrêté d'y penser en fait pendant Sean Connery. C'est pas Harrison Ford, c'est Sean Connery.
C'est les deux
ensemble, non?
C'est les deux.
Ils sont ensemble.
Ah, oui, ouais, c'est les deux.
Trop de beaux gosses pour Florence, ça l'a perturbé.
Et
Liam Neeson.
Et en fait, ouais, c'est vrai, beaucoup trop de beaux gosses pour moi aussi. Il y a des moments en fait où vraiment ça fait, il y a le silence, il y a cette tension, et là franchement, il y a des moments où c'était vraiment tendu et on se disait oh, est-ce qu'ils vont nous toucher, et vraiment c'est là où on touche cette convergence dont on parlait, qui je vais te laisser expliquer
le principe du jeu de rôle en convergence, c'est que les joueurs font exactement ce que ferait leur personnage. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes en train de faire une enquête dans un jeu de rôle, vous êtes Hercule Poirot en train de faire une enquête et que l'indice est dans le journal, si dans le jeu, dans la boîte du jeu, il y a un faux journal dans lequel vous devez en tant que joueur faire l'enquête aussi et regarder dans le journal effectivement, vous êtes en convergence. Vous êtes en train de faire en tant que joueur ce que votre personnage fait dans la fiction. Dans ce jeu, Captain Sonar, on imagine tout à fait, bah, en tout cas, si le but est d'émuler un film type, effectivement, Octobre Rouge, on a coché le bingo, hein, t'avais dit, Roberto, que c'était un des films qui était régulièrement cité pour décrire Captain Sonar. Si on est en train de faire, en tant que joueur, ce qu'on imagine être ce que font les personnages, s'il y a convergence entre les deux, si ce que fait le personnage, ce qu'on imagine que ferait le personnage et ce que fait le joueur sont similaires, on dit alors qu'il y a convergence.
Et c'est intéressant parce que moi, en fait, très souvent, je trouvais que jouer en convergence, c'est un truc que je retrouvais beaucoup en jeu de rôle, dans certains jeux de rôle qu'on pouvait pratiquer, mais je l'avais peu, en fait, en jeu de société. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on touche.
Oui.
Qui justement permet de ressentir une tension. On fait des choses. Alors évidemment, le mécano, il n'est pas en train de réparer des trucs, mais il répare finalement des certaines choses et tout. Et moi, je trouvais ça très intéressant.
Récemment, tu as ouvert la saison. Tu as terminé la saison 16.
Il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas
tu as terminé la saison 16 en disant que tu trouvais qu'il y avait un grand rapprochement ces dernières années
entre le jeu de rôle
et le jeu de société.
Exactement. Et du coup, là, je le retrouve.
avec Captain Sonar, on en a pour moi l'illustration. Moi, tu vois, Roberto serait arrivé ce soir en me disant « Je vais te présenter mon nouveau jeu de rôle. Il s'appelle Captain Sonar et il m'aurait fait à jouer à ça. » Je n'aurais pas pu dire « Non, non, ce n'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu de plateau. »
D'autant, alors, d'autant que,
c'est un
comme,
jeu de rôle
comme
pour
dans
moi.
Certains jeux de rôle actuels, où on précise le contexte avant de, dans lequel on va jouer, par exemple, le bateau.
Oui.
Là, on nomme le bateau. J'aurais pas été étonnée qu'on se nomme aussi, bah, techniquement on se nomme à détecteur, on a tous un rôle.
Ouais. Et d'ailleurs, vas-y, continue. Mais...
Et du coup, on faisait ensemble l'USS Danette.
Et voilà. C'est ce que je vous disais au début quand vous disiez oui, mais c'était. Il y avait de la tension, machin. Et je voyais bien, Florence, à un moment donné, tu m'as pris un peu à part et tu m'as dit oui, mais t'inquiète, c'est normal dans les parties, machin. En fait, je pense que c'est parce que nous, on est des rôlistes. Et en fait, on était en train de simuler la panique. Tu vois. Et je pense à te dire oh là là, ils paniquent. Et tu t'es pas dit à un moment donné, mais ils doivent pas aimer le jeu, ils sont en train de paniquer, ils sont en train de s'engueuler. Mais nous, on aime ça, en fait. C'est du jeu de rôle pour nous, tu vois. Et en fait, on était dans notre rôle. Quand toi, Flavie, tu prends le rôle du capitaine et que tu gueules machin, machin et tout. Et c'est, évidemment, Flavie n'est pas comme ça dans la vraie vie. Elle jouait un personnage. Et moi, en tant que mécanicien, en mode ah non, mais c'est pas possible, mais on n'y arrivera pas, capitaine. J'étais aussi, on était déjà, parce que nous, on a l'habitude du jeu de rôle. Franchement, on était déjà dans des rôles, en fait. Et ça nous aurait pas étonné de faire une intercession. On va racontons l'histoire d'amour entre le capitaine et le mécano, machin, tu vois. Enfin, il y a quelque chose là.
Je t'aurais quitté à la première partie. Parce
c'est
que...
ça, parce que t'étais vraiment trop nul en tant que mécano. J'ai compris, j'ai saisi. Mais voilà, c'est que nous, on était dans le rôle, en fait. On commençait déjà à être dans le rôle. Voilà, je sais pas. C'est...
Bah, depuis qu'il est sorti, Captain Sonar, à chaque fois, on a reçu des vidéos mais extraordinaires de partout dans le monde.
De gens qui se mettent en scène, en fait.
Qui se mettaient en scène avec la lumière rouge, et comme voilà. Dans. Voilà, et carrément avec des casquettes, des uniformes et tout ça. On a reçu des vidéos, mais c'était un kiff, pas possible. Et à chaque fois qu'on parle de Captain Sonar, les gens, ils te racontent ce qu'ils ont vécu. Chaque partie est racontée, je te jure. Mmh. C'est chaque partie, c'est une aventure. Là, vous avez eu quoi ? 3 parties. Chacune était différente.
Ah, d'ailleurs, pour la petite histoire, Roberto. Il y a quelques temps, on a été contacté par une direction de l'armée de terre à Paris, un fan du jeu. Qui a réussi à. Il y jouait le midi avec ses collègues officiers et il l'a imposé, il a réussi à l'imposer comme un événement dans l'année, tournoi de Captain Sonar à la direction de l'armée de terre de Paris, avec des officiers.
Ah, c'est génial, parce que depuis de
pour
temps.
Pour apprendre à communiquer, depuis le temps,
depuis le temps que je te dis, que je dis et je l'ai dit dans 3 trolls la saison dernière, qu'il fallait que le jeu de rôle se rapproche de l'armée et qu'en fait, depuis des années, moi je me prône par exemple. Aujourd'hui, il y a une espèce de grande séparation, Roberto, pour te la faire courte, entre le jeu de rôle, jeu de société, divertissement, donjons et dragons, en gros, et le jeu de rôle comme formation en entreprise, comme éventuellement... tu vois, par exemple, personne n'irait dire, on le dit, mais personne n'irait dire qu'une simulation d'attaque terroriste à Paris effectuée par le ministère de la Santé, c'est du jeu de rôle. Et moi, depuis des années, dans ce podcast, dans ces micros, je défends l'idée que c'est du jeu de rôle et que quand on organise une convention de jeu de rôle, il ne s'agit pas uniquement d'inviter les gens qui jouent à Donjons et Dragons. Il s'agirait aussi d'inviter les gens qui font des opérations militaires dans le cadre de l'OTAN, etc. Et là, ce que tu dis, c'est que l'armée commence à s'intéresser aussi au jeu de rôle. Ça fait très longtemps. Hein.
C'est marrant ce que tu racontes parce que dans une autre vie... J'ai participé à un genre de jeu de rôle organisé par le SRPJ, la police de Strasbourg, qui venait s'entraîner. Et on a... Bon, je raconte pas tout, mais...
c'était un peu ça. On dit pas tout.
Non, parce que c'était marrant. C'était une sorte de... Ils venaient s'entraîner. Ils divisaient les gens en 2 groupes, les terroristes et les policiers. Et chaque jour, ils avaient un jeu qui se déroulait sur tout le département. Ils se divisaient en équipes et il fallait qu'ils trouvent les terroristes. Et nous, ils nous ont demandé notre collaboration avec la vedette des douanes. Mmh. Et du coup, on...
Parce que tu as été douanier dans une autre vie, exact.
Et du coup, on a réussi à les choper en ronce. C'était la seule victoire sur toute la semaine. Donc, il faut se poser des questions sur l'efficacité de la police.
Mais tu vois, moi, depuis des années, donc je le dis, mais aussi, on apprend récemment, et notamment, il y a eu des vidéos qui ont raconté l'histoire et l'origine du jeu de rôle, qui racontent comment le jeu de rôle vient aussi du jeu de guerre. Kriegsspiel, donc le fameux jeu de guerre allemand-prussien, voilà, où deux armées s'affrontaient dans des salles différentes et où il y avait un arbitre au milieu dans une troisième salle qui devait faire la transition entre les armées, etc. Et comment ensuite ça donne lieu à des jeux de stratégie, des jeux de campagne militaire, etc. Aujourd'hui, le mot campagne qui est encore utilisé dans le monde du jeu de rôle, il vient justement, il tire aussi cette origine des fameuses campagnes militaires. Flavie.
Je voudrais aussi qu'on parle d'un deuxième point où il y a une grande tension qui apparaît dans le jeu, qui est le moment où on fait surface.
Ah, c'est génial. Vas-y.
En fait, quand en gros, il y a tellement d'avaries dans le moteur que c'est plus possible en fait de faire autrement, le mécanicien va voir le capitaine, passe une commande au capitaine qui dit « Putain, faisons surface, mec, j'en peux plus, je peux plus rien gérer et toi non plus. » Alors, on fait surface. Quand on fait surface... En fait, c'est pour réussir à gommer sur la feuille, ça il va falloir qu'on en parle après, aussi,
toutes les avaries. Ouais.
Mais pour pouvoir gommer ça, il y a un petit sous-marin qui est dessiné avec quatre parties, une partie par joueur, et les joueurs vont devoir entourer les parties sans dépasser d'une certaine partie et en mettant leurs initiales. Et chacun se passe la feuille et ensuite on doit montrer au mécano adverse qui valide ou pas si c'est bien entouré. C'est un moment qui t'oblige à ralentir, sauf que pendant que t'es en train de faire surface, les autres, ils se rapprochent de ta position. C'est un moment de tension où t'es en train de t'obliger à ralentir. T'as fait surface, t'es en train de ralentir. Et en même temps, t'as juste envie d'aller vite. Et pendant que les autres sont en train de te chercher, c'est des moments de grande tension.
Et c'est une grosse soupape aussi parce que c'est le moment où on fait le point. C'est le moment où chacun est en train de dessiner les contours du sous-marin, là, les uns après les autres. Donc c'est le moment où on peut discuter. De toute façon, là, on a 30 secondes devant nous.
Mais l'adversaire continue.
Oui, évidemment. Mais on ne peut rien faire puisqu'il va falloir faire ce contour-là.
Mais ce tracé...
Donc, c'est le moment où on fait un point.
Ce tracé, en fait, il correspond vraiment à la réalité. Parce que tu sécurises la coque. Tu fais le tour de la coque de ton secteur pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu
ça. Tu signes. T'es responsable s'il y a un
problème. Oui, comme la dame pipi aux toilettes, tu signes. C'est pareil.
Mais tu vois, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois de plus, on a un mini-jeu. On a un mini-jeu qui pop, en fait, à un moment donné, quand on fait surface, on doit faire le tour d'un dessin. Et en fait, tu dois te calmer. Mais mine de rien, alors que t'es dans une situation de tension extrême où tout le monde est sous pression, reprendre son petit crayon et faire le tour d'un dessin...
Alors que tu trembles des fois.
Je peux vous jurer qu'il est gros, ce dessin. Je veux dire, pour ne pas trembler... Voilà.
On n'a pas dit, mais si on dépasse, évidemment, l'adversaire vérifie, il dit « Ah non, c'est pas bon, il faut refaire. »
C'est le mécano adverse qui
vérifie.
Et donc,
c'est reparti. Quoi.
Et donc, c'est reparti. Et donc, on doit tout recommencer. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ce moment de tension fait du coup qu'on perd du temps. Et ce temps-là, c'est ce que disait Florence, et c'est très important de le préciser, c'est du temps très précieux pour les adversaires pour mobiliser. Parce que pendant qu'on fait surface, on est ripère, en fait. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils savent où on est. Hein. C'est bien ça. Hein. Ils savent exactement où on est.
Non, ils savent le secteur. On annonce juste le secteur où on est. Et il y a un truc important, c'est que quand on fait surface et qu'on répare, donc qu'on inspecte la coque en faisant ce tracé, on n'a pas le droit d'utiliser aucun système. On peut pas tirer de torpille en surface, pas poser de mine.
On est complètement immobile.
On fait juste que réparer. Ouais, on est paralysé complètement.
Ouais, complètement paralysé.
Et le détecteur n'a le droit de rien marquer.
Non, il doit mémoriser.
Il doit mémoriser sud, ouest et tout
mais
ça.
Mais là, je sais pas si on.
C'est
l'a
pour
fait,
ça que si on l'a fait nous, mais c'est pour ça que souvent on le donne. À... Ouais. C'est lui qui le
et
fera en
fois,
dernier.
Et des fois, voilà, le détecteur continue, mais normalement, il ne doit pas continuer.
Vous déconnez. Il faut faire ça, c'est-à-dire que quand.
Bien sûr.
Ah oui, le détecteur ne marche pas, donc il peut
toute
pas noter.
Toute l'équipe est en stand-by.
Oh my God. Mais pour lui, le moment où il fait son tracé, le détecteur, enfin le sonar, mais c'est l'angoisse. Parce qu'il doit être attentif à son tracé et il doit mémoriser.
Alors, l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu faire détecteur, c'est justement parce que j'ai vu Christelle. Puis Christelle, elle est comme moi, elle avait beaucoup... Je trouvais que le vin blanc était très bon. Et il était délicieux. Et en fait, au moment où on a fait surface pour tout remettre à zéro, elle a retenu que les deux premiers. Et moi, je n'avais pas retenu tout, mais je savais qu'il y en avait cinq qui avaient été faits. Elle m'a regardé, elle a fait « Trop pis, trop tard ». Je peux pas que je fasse détecteur, moi c'est pas possible. C'est pour ça qu'elle s'est trompée à un moment.
Ouais, mais de toute façon, au final, comme quand tu fais surface, il y a un avantage quand même. Tu as perdu du temps, mais tu effaces tout ton tracé. Parce qu'au final, les tracés s'accumulent. Quand on n'a pas le droit de couper son tracé
chez
sur la carte et de revenir en arrière,
oui.
Bah, du coup, bah, sur la carte oui, du navigateur, tu effaces tout et tu gardes juste le point où tu es. Tu réinitialises la carte. Donc, en fait, le détecteur adverse, il efface aussi. Au final, il libère toute sa carte, il garde juste la zone.
Ouais, bien sûr.
Pense que
ouais,
le mistro.
Ouais. C'est génial. Donc moi j'aurais plein de remarques à faire, mais on les fera peut-être plus tard sur pourquoi est-ce que j'ai du mal quand même à comprendre pourquoi est-ce que ces situations de stress extrême, situations militaires d'affrontement et tout ça nous font comme ça corréler avec le jeu de rôle et la simulation, et je vois pas les liens, je ne comprends pas pourquoi est-ce que immédiatement on pense jeu de rôle quand on pense jeu d'affrontement comme ça. Et ça je ne sais pas, c'est une question que je pose, si les auditeurs auditrices ont des indices là-dessus. Tu comprends pas ma question, Flavie, j'ai l'impression.
Si, mais j'ai des théories, mais
ouais, parce que
on
je comprends
resterait
pas
dans le truc un
pourquoi
peu
le jeu de rôle naît du jeu de guerre. Pourquoi est-ce que là, quand on fait un jeu de simulation de bataille de sous-marin, on se retrouve immédiatement plongé dans un système
alors,
très immersif
dans
de simulation.
Dans un premier temps, alors moi je t'expliquerai, dans un premier temps, d'un point de vue historique, les gens qui jouaient, en fait, c'était les rois, les reines, et en fait, les premiers vrais jeux, en fait, sont des jeux de guerre aussi, parce que c'est comme ça qu'on apprend aux régents et aux gens qui vont gérer, en fait, comment acquérir, en fait, les notions de guerre et les notions de jeux de guerre. Donc, c'est comme ça qu'on apprend, par exemple, dans les anciennes.
Oui, bien sûr, le CNET, tout ça. Mais tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imagination, et ça, c'est très intriguant. L'imagination, le pouvoir d'imaginer des situations possibles, il émerge de la condition de puissance. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est au pouvoir, parce qu'on a la possibilité de prendre le territoire de tel ou tel, de bombarder tel ou tel lieu, etc., qu'on commence à avoir cette imagination. L'ouvrier, lui, l'ouvrier, il doit faire sa tâche, il doit pousser sa pierre jusqu'à la pyramide, il n'a pas le temps d'imaginer. On lui dit « tu fais ça, c'est comme ça, etc. » Alors que le puissant, lui, qui voit en surplomb, en fait, et qui domine son monde, a l'imagination. Et du coup, ça ouvre l'idée
oui,
que
mais
le
en
concept
fait,
d'imagination est lié au pouvoir.
En fait, ce n'est pas tout à fait ça que je voulais dire, moi, en fait. C'est juste que, du coup, on apprend à des gens, en fait, assez jeunes, à retenir, en fait, l'histoire de la guerre. Parce qu'ils vont y être confrontés. Sauf qu'en fait, les gens à qui on apprend ça à l'époque, en fait, c'est des jeunes gens. Donc c'est de la pédagogie, en fait.
Ah d'accord, l'imagination sert en fait à apprendre
en fait, c'est pour ça
à se mettre dans des situations, à se mettre en
exactement,
situation.
Exactement, okay. En fait, et c'est pour ça que moi je pense que c'est de là d'où c'est né, en fait, c'est parce qu'on apprenait à des jeunes gens, et en fait plus tard on voit bien ils créaient des sortes de maps pour mieux se comprendre, parce qu'aussi il fallait comprendre exactement où on allait placer les choses, etc. Mais je pense que c'est ma théorie, hein. Ma théorie, c'est qu'à la base, si tu dois apprendre au futur dauphin Louis XIV comment aller péter la gueule aux Anglais, et qu'à ce moment-là, il est devenu roi assez jeune, pour lui apprendre ça à l'âge de 6 ans, il va bien falloir faire ça d'une façon un peu plus simple, et on va pas lui filer un bouquin en disant « Allez, maintenant tu me lis l'histoire de la guerre de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, tu as 5 heures ». Non, c'est un gamin, en fait, donc il va falloir le faire jouer.
C'est intéressant. Alors, donc ça, c'est complètement hors sujet. Revenons à Captain Sonar. Alors, ce qui m'a frappé énormément, c'est le côté codifié du jeu, qui permettrait même à des personnes étrangères, les unes aux autres, en tant qu'équipe, il faut quand même se connaître un minimum, je pense. Ouais, c'est-à-dire que l'équipe peut se connaître. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que le jeu est suffisamment codifié pour mettre face à face des gens qui se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, voire même des gens qui ne parlent pas la même langue.
On a déjà fait sur les salons régulièrement.
Raconte.
Quand le jeu est sorti, alors il a été présenté à Essen en Allemagne. Du coup, il y avait des joueurs, des Allemands, des Anglais, des Espagnols, et ils se mettaient à table tous ensemble, et puis ils se connaissaient pas. Ils jouaient, et puis à la fin ils se tapaient tous dans les mains. Donc il n'y avait pas de problème.
Toi, dont l'objectif est justement par le jeu de réunir un maximum de monde différent autour de la table,
torpillez-vous allègrement.
Torpillez-vous les uns les autres, disait Roberto après quelques verres de vin blanc. Non mais tu vois, c'est ce que je trouve génial, c'est ça, c'est que le jeu est tellement bien codifié qu'en fait il permettrait presque d'y jouer avec des gens qui ne parlent pas la même langue.
On l'a fait,
et vous l'avez fait.
Une grande ritualisation aussi. C'est-à-dire que dans les premiers temps, en fait, les deux premières parties où on joue, je trouve, on apprend la ritualisation du truc, en fait. Mmh. Et je trouve que le moment où on voit que la ritualisation, elle est OK, c'est quand on a joué à la troisième partie, là où moi, j'étais de l'autre partie, de l'autre côté, parce que je voulais voir de l'autre côté. Et en fait, quand le capitaine, c'était Yann, en fait, donnait un ordre, il y avait Julie et moi, on disait « OK !» en levant le bras comme ça. Genre, là, c'est, non seulement c'était pris, mais on s'est mis à symboliser sans qu'on nous l'ait demandé, en fait, avec des gestes. Certaines choses qui collaient pas, en fait. Mmh. Et quand ça collait pas, je faisais non avec mes doigts, je croisais mes doigts. Et en fait, quand je faisais ça, au fur et à mesure, Yann s'est mis à se retourner. Et puis, du coup, il y a Julie aussi qui faisait son taf de faire passer les choses et tout. Et du coup, en fait, cette ritualisation, elle impose, en fait, au début, du coup, on est très bruyant. C'est pour ça que le niveau de bruit baisse. Tant que la ritualisation n'est pas là, du coup, tu essayes de passer par-dessus les autres parce que tu ne l'as pas, donc il faut que tu dises les choses, et donc ça te met dans un état de stress. Donc évidemment, naturellement, tu te mets à beugler.
On se met à hurler, ouais.
Sauf qu'à la troisième...
Les deux parties étaient extrêmement bruyantes.
Oui.
Extrêmement bruyantes.
Sauf qu'à la troisième partie, du coup, comme la ritualisation était acquise, eh ben, des deux côtés, c'était hyper calme. Mmh. Et aussi, on s'est mis à se dire des trucs dans l'oreille pour que l'autre, il n'entende pas devant. Ce qui aurait été inenvisageable à la première partie, parce que la ritualisation était acquise. Et aussi parce qu'il y a cette communication du fait de dire « Ok, le détecteur, il est en train de dire un truc dans l'oreille du capitaine. Je sais que du coup, c'est un truc important. J'attends que le second me passe l'info et tout va bien se passer. » Alors qu'on était à deux chaînes, deux extrêmes. Donc c'est là que c'est assez intéressant de voir « Bon, t'as un coup d'entrée, du coup... Faut accepter un peu le chaos au début, mais en fait, ce truc, c'est extrêmement drôle. Et puis, en fait, ce qui fait qu'on passe d'un jeu très chaotique, très drôle, très fun, à un jeu, en fait, qui devient tactique, calme, et je pense que plus tu y joues, plus t'es ritualisé.
Antoine, toi qui en as fait des campagnes ?
Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le livret de règles, en fait, il n'y a aucune page qui traite de ça, justement, de... les techniques qui naissent, en fait il y a un vide à ce niveau là qui
est une émergence,
un vide fertile en vrai.
Voilà,
une
où une chaque émergence. Équipe de 4 là va commencer à avoir des rituels spécifiques à l'équipe, des petites techniques, une chaîne de commandement propre parfois, hein, où on va dire finalement c'est toi qui vas faire ça, c'est plus simple. Et, donc, et je pense que en ça là, justement peut naître vraiment un jeu compétitif international selon moi, hein. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec ce jeu. Bon, ça n'a pas été le cas. Tu nous as raconté un peu plus tôt.
Non, mais le jeu n'est pas mort, il continue à se vendre.
Oui, bien sûr.
On en a vendu presque 200 000 en fait.
En plus, il a été réédité.
Ouais,
il y a une deuxième édition.
Oui, oui, non, mais le jeu, il continue à se vendre. C'est pas un jeu que l'éditeur veut arrêter.
En fait, est-ce qu'on peut envisager que Captain Sonar devienne une discipline olympique, tu vois ? Genre, t'es des équipes de Captain Sonar qui s'affrontent. Non, mais vraiment ? Je veux dire, l'équipe de France contre l'équipe du Brésil, tu vois.
On a joué d'ailleurs. On a été invité une année par le distributeur brésilien à Rio de Janeiro avec Johan Lemonnier et Delphine. Et du coup, l'objectif, c'était que les joueurs brésiliens nous coulent, puis gagner une boîte. Donc, c'était quand même de la classe, quoi. Mmh.
On rappelle que Johan Lemonnier est co-auteur.
Le co-auteur. Donc, aller torpiller les Brésiliens à Rio de Janeiro, c'était quand même bien.
Florence et les Argentins.
Oui, les Argentins aussi.
Et les Argentins, on les a torpillés, manque de peau. Quelques mois après, ils ont perdu un sous-marin avec l'équipage.
Un vrai ? Non.
Pas
drôle.
Anecdote,
alors,
mais...
Captain Sonar sera-t-il bientôt comme Fitna utilisé pour prédire les sous-marins perdus et les sous-marins qui vont être perdus ?
Kit de formation.
Voilà, exactement. Flavie.
Moi, je voudrais parler du matériel.
Alors, juste. Je voudrais qu'on rebondisse sur l'aspect créativité.
Ok. C'est
hyper importante, en fait, parce que là, on l'a droppé rapidos. Tu dis, Antoine, en substance, et après on parlera du matériel fait. Tu dis, en substance, le jeu propose des espaces de créativité, c'est-à-dire chacun peut inventer et faire émerger son truc. Est-ce que tu as des exemples de ça que tu pourrais citer là, que tu as créé avec tes joueurs ?
Les exemples, ça va être des exemples ultra personnels. Hein,
oui, mais justement, c'est ça qui m'intéresse.
Souvent, c'est des signes avec les doigts pour aller très vite, quoi.
Génial.
Donc chaque rôle a des signes et fait des symboles avec sa main.
Comme dans la plongée, vous voyez.
Voilà, pour dire, le mécanicien, il va tout de suite dire qu'à l'est, il reste deux slots disponibles.
Ah, vous ne voyez pas, mais il est en train de faire un geste avec mon pouce
vers la gauche.
Mais c'est vrai que dans le podcast, ça marche moins bien.
Donc deux doigts levés très vite avec une direction donnée ou des trucs comme ça. Mais on peut se mettre d'accord pour dire que ce signe-là, ça veut dire, je fais un rond OK en plongée, par exemple. Mm-hmm. Ça veut dire...
je suis OK, c'est bon, torpille.
Non, mais on dit que ça concerne que les torpilles. Tu vois, par exemple, on dit que ce symbole-là, ça veut dire que le Templier, c'est OK.
OK, d'accord. Est-ce que tu as noté aussi du skill en matière de... C'est-à-dire, tu te dis, par exemple, bon, lui, c'est clairement, c'est un meilleur navigateur que lui ou des trucs comme ça, parmi Ou non,
du
pas
skill,
du tout, ça tourne.
Du skill qui se développerait au fil des parties ou en du fait, skill inné? Parce qu'il y a un truc très intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui pourtant, sur le papier, devraient être de très bons capitaines, par exemple. Bah, je te jure que j'en ai rencontré qui sont incapables, ils sont en surcharge cognitive complètement.
Bien sûr.
Alors que sur le papier, tu vois, en jeu de rôle, ils jouent toujours ce type de personnage.
Les capitaines.
Mais ne regarde pas, j'ai jamais joué les capitaines.
Je regarde pas toi, on n'a jamais joué.
Ah d'accord, je comprends. Oui, tu as raison. Nous regardons vers la même direction, Antoine.
De quoi, moi, capitaine de soirée? Jamais de la vie, je picole trop. Non, je pense que tu pensais à quelqu'un d'autre, Antoine.
Non,
parce que moi je suis.
Moi par exemple, je me sens. Alors je sais pas si je serais bonne à ce truc-là, mais je me sens juste incapable de faire détecteur pour l'instant.
Mmh. Ouais.
Juste, je regarde le truc
ce
de loin.
Ce rôle te fait peur.
Ah, grave. Mais genre, je regarde le truc, je suis là, de moment, j'ai choisi de faire mécano parce que de l'autre côté, il n'y avait plus que mécano détecteur. Je fais mécano.
Autre aspect dont je vais parler avec toi, Antoine, sur la créativité, c'est dans les campagnes. Est-ce qu'il y a eu de la créativité de fictionnelle? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, parce qu'on parle de cartes qui sont différentes, on m'a dit qu'il y avait des cartes, et j'en ai joué d'ailleurs, j'ai joué sur une carte où il y avait de la glace, ça change un petit peu l'environnement. Est-ce que tu as senti une sorte de fiction, quelque chose, ou pas du tout?
Si, oui, tu sens que tu peux l'adapter très facilement.
Alors, tu peux l'adapter en jeu de rôle très facilement. Ouais, d'accord, ça c'est clair.
Mais nous, c'était pas né à ce moment-là. C'est okay. Ça pas émergé, quoi.
Une campagne,
c'était
c'est
pas
quoi
l'objectif.
Excuse-moi, une campagne, c'est
non,
quoi?
Non, mais la campagne, donc on parle du pack upgrade numéro 2, ouais, qui s'appelle le Dragon.
Opération Dragon.
Opération Dragon.
Ok.
Qui est une sorte de legacy, c'est-à-dire tu fais les 7 maps d'affilée.
Et alors, c'est quoi la conséquence, par exemple, entre les maps? Comment ça interagit?
Alors, attention, il faut que ça soit les mêmes équipes qui jouent les 7 maps. Tu peux pas. Le but, c'est que ce soit les 8 mêmes personnes.
C'est toujours le même équipage.
C'est pour ça que je dis legacy, dans le sens où on démarre avec des gens, il faut finir avec ces gens-là.
Mais alors, du coup, t'es opposé à eux?
Voilà. Oui, c'est 4 contre 4, mais on fait dans une histoire.
Ok, d'accord.
Et après, les maps, on peut les rejouer indépendamment, bien sûr.
C'est comme si tu avais 7 missions successives, en fait.
Alors, la dimension legacy, elle intervient. Oui, mais alors attends, parce que si les 7 missions ne sont pas corrélées les unes aux autres,
si,
c'est pas un legacy.
Elles sont corrélées, comment elles se corrèlent? Parce qu'il y a des victoires, il y a des conditions de victoire.
En fonction des victoires, tu pexes sur le sous-marin.
Voilà, et voilà, c'est ça. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans les extensions, il y a une liste de sous-marins différents, il y a une asymétrie qui se crée.
Des postes de mécanos différents.
Voilà.
Parce qu'on s'habitue au pattern.
Des armements différents. En gros, au début, on choisit son sous-marin qui est peut-être plus fort, plus lent, mais plus fort, plus tanky.
Il y a un côté un peu Formule D. Tu as fait des campagnes de Formule D, Roberto? T'as
non.
jamais joué à ça?
Non.
C'est un peu comme ça, t'achètes des moteurs, des bagnoles, des trucs, tu répares ta bagnole, tu dois payer des trucs. Enfin, bref. Ok, très très bien. Ok, mais pas de créativité fictionnée du genre, à un moment donné,
Ça peut émerger, je suis sûr.
Le capitaine adverse tombe amoureux du. Je sais pas,
non, toujours ça.
Hein. Non, j'exagère, non, mais j'exagère.
Je crois que c'est le truc qu'on préfère, toi et moi, dans les jeux de rôle, c'est
non,
ça
non, non, pas du tout, alors surtout pas moi. Non, mais c'est juste pour avoir une idée, tu vois, parce que Roberto, il aurait pu prévoir un truc, par exemple, qu'il y a un traître dans le sous-marin.
Mutinerie.
Non, on a rajouté on voulait rajouter un cuistot pour rigoler, on a fait ça aussi.
Alors vas-y, raconte.
En fait, quand on a sorti le jeu en Allemagne, c'est un éditeur qui s'appelle Pegasus Spiele qui le distribue là-bas. Et quand on l'a présenté, ils veulent toujours qu'il y ait un petit plus le jour de la présentation.
Ouais.
Donc on avait fait le rôle de cuistot. On avait 2 tocs. Donc il y avait un 5e membre d'équipage qui était, je crois, à côté du second. Et il avait une fiche effaçable et un feutre effaçable. Et sa fiche effaçable représentait les plaques de cuisson. Et il avait une liste de menus, de la paella, les bolognaises, etc. Et pour faire tel plat, il lui fallait tant, il lui fallait de l'énergie aussi. Il lui fallait par exemple 2 vertes, 1 jaune, 3 rouges. Et donc il demandait au mécano, il me faut une rouge pour terminer la paella. Parce qu'en fait, sauf que le capitaine lui disait, non, en ce moment ça suffit avec ta paella, c'est les torpilles en priorité.
Ouais.
Mais l'avantage, c'est que s'il arrivait à placer un repas, ensuite l'équipage remplissait les jauges plus rapidement. Il y avait un cran de moins parce qu'ils avaient bien mangé, ils étaient satisfaits. Donc ça fonctionnait, mais c'était un peu synchro. Mais après, je vous parlerai d'un autre cinquième rôle qu'on voulait faire avec une appli.
Ouais.
Le rôle du barreur, on est proposé à l'éditeur.
Okay.
Parce qu'en fait, le barreur, c'est le gars qui tire la barre, le volant du bateau.
Ouais.
Et on avait proposé à l'éditeur de faire sur une appli, de chaque côté, chaque barreur a son téléphone, son smartphone.
Ouais.
Il le tient. Sur le téléphone, il y a un gyroscope. Tu vois le cap à l'écran.
Oh non,
et quand
horrible.
Le capitaine dit route
Motion
à l'est,
gaming.
Il tourne. Si par exemple, je fais route à l'est et que le capitaine dit route au nord, il faut incliner à gauche ou à droite le smartphone?
Alors attends, donc si...
on est route à l'est.
On est route à l'est.
Et le capitaine te dit route au nord.
À droite.
Bah, si tu fais à droite, tu vas faire 270 degrés. Donc tu vas mettre beaucoup plus de temps à virer. Il faut que tu ailles à gauche.
Ah oui, d'accord.
Là,
non, je me suis trompé. Je me suis trompé, ça y est.
C'est génial parce que ça correspond au jeu pour apprendre les oui. algorithmes, en fait, aux enfants.
Comment il s'appelle le jeu de robot, là?
Tuckbox. Il y avait...
Non, c'est pas ça, tu dois rentrer un programme genre flèche haut, flèche
haut. Ah oui, mais non, ça c'est quand t'es déjà bon, c'est au collège.
D'accord.
Non, les premiers niveaux, c'est Tuxbot avec le pingouin que tu dois justement déplacer dans un quadrillage. Et du coup, en fait, ça t'oblige à changer de perspective
ouais.
et de point de vue. T'en as un autre aussi avec des sortes de coccinelles pour les gens qui sont dans le... Et en fait, tu dois rentrer l'algorithme droite, gauche, droite, gauche. Donc, tu as un quadrillage sur le sol et on te dit où tu dois aller. Sauf qu'à un moment, quand la coccinelle elle va tourner à droite, s'il faut aller vers le haut, en fait, il va falloir penser qu'au moment où elle sera à droite, du coup, en fait, il ne faudra pas aller vers le haut, mais du coup, vers la gauche. Enfin, bref.
Bien sûr, ouais.
Non, là, c'est pas. Excuse-moi.
Non, je t'en prie.
En fait, là, c'est pas juste les caps. C'est que pour qu'il y ait aussi de la communication dans les deux sens, pas simplement le capitaine qui demande au barreur de suivre des caps, c'est que. Sur l'écran, le barreur, il voit le gyroscope, nord, sud, est, ouest, etc. Et il voit aussi l'étrave du sous-marin qui avance dans l'eau, comme ça. Et il voit aussi des zones qui défilent à droite, à gauche, c'est des zones d'énergie dans l'eau. S'il voit à l'est une zone rouge, s'il passe dessus, il gagne 2 points d'énergie en plus, ou 1. Il y a les zones négatives.
Ah oui, d'accord, okay.
Donc du coup, il va dire au capitaine, si on vient à l'est, on peut se prendre un point d'énergie en plus. Ah ben je peux pas, il y a une île. Par contre là, il faut pas aller à l'ouest parce que sinon c'est en négatif.
Oui, donc en plus il y a un autre truc. Ok.
Mais bon, ça c'était une idée, mais ça ne s'est pas fait.
Mais alors après, une fois qu'on a compris, honnêtement, que Captain Sonar c'était des mini-jeux qui communiquaient les uns avec les autres, on peut envisager des tas de rôles différents. Je pense.
La femme de ménage.
Le rôle du cuistot, la femme de ménage, effectivement. Tu peux tout imaginer. Alors, la femme de ménage, tu avais pensé à quoi?
À rien pour l'instant.
Ok. Mais effectivement, on pourrait imaginer ça. Je ne sais pas, j'ai pas d'imagination là tout de suite. Mais tu vois, le fait d'effacer. Tu sais, le fait qu'il y ait quelqu'un, qu'on doive toujours effacer des trucs. Ça pourrait être un rôle, tu vois, de devoir effacer, par exemple,
ça,
les choses.
Ça, c'est la femme de ménage.
C'est la femme de ménage. Justement, c'est à ça que je pensais.
Ouais, mais attends, le capitaine, il a déjà... combien
un, j'ai deux, besoin
trois,
de la femme de ménage
trois, sur la trois coéquipiers, tu rajoutes le cuistot plus la femme de ménage, ça fait du monde à gérer. Hein.
Non, mais par contre, je pense...
intérêt à avoir non. bien le jeu en main avant de commencer ça.
C'est sûr.
Non, c'est pas dans le... Je pense pas qu'on peut rallonger des postes dans tous les sens. Mais le poste de barreur, déjà, ça aurait pu se faire si l'éditeur avait suivi le truc, parce qu'il fallait développer une appli.
Ouais, c'est ça.
Mais ça s'est pas fait. Mais par contre, où ça peut aller... où on peut développer le truc, et on l'a déjà fait, c'est on peut jouer à deux sous-marins contre un sous-marin. Oui. Si par exemple, moi, je suis le sous-marin qui est seul, j'ai deux détecteurs. Un détecteur A qui écoute le sous-marin adverse A et un B qui écoute le B. On a joué, et c'est extrêmement dur de gagner à deux contre un. Donc voilà. Plus la version...
Mais on est combien autour de la table, du coup?
Eh bien, il y a une table 4, avec 4, 5 personnes.
Ah, c'est ça.
Et 4, les 4, 5. Et deux 4-4-5, c'est ça.
Ouf. La cacophonie. Enfin, au début. On a dit au début.
Et si en plus tu le fais en version à boire en 4-4-5, là, ça. Parce qu'il y a une version à boire également, mais.
Alors vas-y, raconte.
La version à boire, c'est une version qu'on ne peut pas vendre, forcément, mais qu'on propose à tous les gens gentils qui nous demandent qu'on leur envoie les fichiers par mail. Et avec modération.
Je suis désolé, mon Bertin. Tu vas peut-être avoir quelques...
Tu vas avoir quelques mails.
Non, mais il y a écrit avec modération tout en bas aussi.
Avec modération, d'accord.
De jouer avec modération.
Oui.
Et en fait, c'est juste des cartes à imprimer, des cartes spécifiques. C'est une carte sur laquelle il y a 6 îles. Et sur 3 des îles, il y a un petit V. Ça veut dire que sur ces îles, il y a des paillotes vodka qui sont installées sur les plages. Et sur 3 des autres îles, il y a des R, il y a des paillotes rhum. Donc, l'équipage des Russes, ils ont des shooters de vodka devant eux, chacun. Mmh. Et l'équipage des Américains, ils ont des shooters de rhum. avant d'engager le combat, les deux équipages, ils doivent être passés chacun sur les trois îles pour boire leur truc. Donc les Russes, ils n'ont pas le droit de combattre avant. Donc par exemple, les Russes arrivent à côté de l'île où il y a une paillote vodka et ils disent « Stop, paillote vodka !» Ils boivent tous. Stop, paillote vodka. Donc en fait, s'ils ont bu plus vite que les autres, ils peuvent engager le combat alors que les Américains ont pas eu le temps de boire leurs trois verres. Et une fois que tout le monde a bu ses verres, on commence le combat comme le jeu donc, normal.
Oui, tout à fait, comme le jeu normal.
Non, mais le truc qui est le plus puissant, c'est que du coup, quand tu fais surface, tu vides les ballasts. Ça veut dire que tu vides les verres et quand tu plonges, tu les remplis. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Le mécano, du coup, qui devient de plus en plus bourré, il arrive de moins en moins. Enfin, il faut qu'on fasse surface.
Donc c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est que la dernière fois qu'on a joué, il y a eu une mutinerie parce que du coup l'équipage, mon équipage voulait qu'on fasse surface, ils avaient soif, mais c'était pas le moment du tout. Donc j'ai refusé et donc ça s'est un peu crispé. C'était limite. Eux, ils voulaient boire, mais on pouvait pas.
Ouais. Et donc tu me disais qu'évidemment ce genre de choses ne peut pas être vendu dans le commerce.
Non, mais c'est facile. On a les fichiers, on les envoie.
Et après, il y a plein de jeux qui ont été transformés en jeux à boire. Même dans
celui-là, franchement, il doit être énorme.
Ouais. À chaque fois que tu fais surface, tu vois quoi.
On peut jouer aussi éclair au chocolat, éclair au café, y a pas de problème.
Ouais,
c'est une version gastronomique.
C'est exactement à ça que je pensais.
Ouais, alors là, le mal de bide, voilà quoi. C'est bon. Voilà. Mais alors ça, c'est quand même un petit défaut quand même du jeu. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la mutinerie. J'ai quand même senti de la pression sociale. C'est-à-dire que c'est quelque chose quand t'es débutant dans ce type de jeu. Soren au début il était pas fier, moi j'étais pas fier non plus. Quand j'ai réalisé qu'à cause de moi tout l'équipage avait coulé, que tout le monde se retourne vers toi et te dit t'as été nul comme mécanicien. Bon, bah tu fais
disons
bon.
Disons qu'à cette partie-là, j'étais entouré d'un mécanicien et d'un détecteur qui n'ont quand même pas vraiment assuré.
Oui, sauf que quand.
Il y a Christelle qui est morte de rire là-bas, elle ne parle pas dans les micros. Non, mais...
sauf que quand j'ai été capitaine, on m'a dit t'es nul comme capitaine. Donc à la fin, bon, j'ai fait non, mais... bon, moi je suis nul.
Il y a une. Il y a un truc qu'on a fait une fois, c'est, ça peut pallier à ça, c'est qu'il y a un changement de rôle en cours de partie. Quand tu te prends un impact, tu dis « Bon allez, on change de capitaine !» Celui qui est jugé responsable, il permute avec un autre. Ça peut se faire.
Mais tu vois, c'est quand même difficile dans un jeu de société de groupe comme ça, avec ces pressions-là, de faire peser la responsabilité, même si, et c'est le cas, hein, honnêtement, j'ai été un mauvais mécanicien et j'ai été un très mauvais commando.
Mais tu savais pas encore jouer.
Oui, non, mais je sais bien. Mais c'est quand même compliqué, je pense. Je pense que vous avez eu beaucoup de mauvais joueurs à Captain Sonar, non, Florence, Roberto, ça vous est jamais arrivé d'avoir des gens qui rage quit ou qui s'énervent un petit peu? C'est une pression de fou. Franchement, vous rendez pas.
C'est pas grave, on les fusille.
C'est vrai que j'ai eu une partie où j'étais détecteur parce qu'il manquait quelqu'un. Donc je me suis mis comme détecteur et j'ai trouvé l'ennemi tout de suite et le capitaine, mais il a fui. Je lui ai dit, mais il faut lui lancer une torpille, je sais où il est, mais il a fui. Je sais pas, il a paniqué et tout.
En fait, c'est ce que je pense. Enfin, vous avez jamais eu d'engueulade, en fait, de couple, par exemple, au cours de Captain Sonar?
Si, c'est arrivé une ou deux fois. Oui.
Non?
Oui, c'est arrivé. Oui, oui. Si, de couple, oui.
Non,
oui,
mais
oui, je me rappelle
trop bien. Même parent-enfant. C'est-à-dire que parent-enfant, tu vois.
Oui.
Quand t'as ton fils qui te regarde et qui te dit, papa, t'es nul comme capitaine. Je veux dire, va te coucher. C'est quand même un jeu qui met sous pression.
Regarde, c'est parce que c'est la vraie pression que tu ressens dans un sous-marin.
Et c'est intéressant, en fait.
Mais c'était les premières parties aussi.
Non, mais même, je trouve ça intéressant.
Et tu sais que c'est pas parce qu'il dit ça que ça lui a pas plu.
C'est en fait, le truc, c'est que c'est rigolo de voir les rapports hiérarchiques chez être chamboulé par un jeu de société, de voir justement, de ressentir aussi l'effet que ça fait d'être le maillon faible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, c'est de voir des gens qui se croient forts. Endosser vraiment un rôle de capitaine et s'effondrer en fait etc et en fait
ça, j'en ai vu des gens comme ça. On a eu une année pour une route du Rhum, en fait on avait une entreprise rennaise qui s'appelle Cardinal, c'est une entreprise de construction très importante, et ils organisaient un séminaire à Saint-Malo. Les séminaires, ça consiste en l'après-midi ils ont une réunion et le soir ils vont boire. Et du coup
ballast vide, ouais.
Et du coup la réunion c'était une partie de Captain Sonar pour tous les chefs de chantier,
ouais.
Et il y avait le patron de la boîte, et le patron de la boîte il a voulu se mettre capitaine parce que c'était le patron. Ouais. Et du coup, il écoutait pas ce que disaient ses mécanos, c'était ses employés, son mécano. Et du coup, la partie a duré quoi, moins de 10 minutes. Parce qu'il écoutait pas. Et à la fin, il y a eu un débrief parce que c'était avec une fille qui fait de la formation par le jeu. Et elle a expliqué au patron, elle leur a dit, voyez, peut-être que des fois, on peut écouter aussi ce que disent les employés. Mais je crois qu'ils s'en foutaient complètement.
Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le jeu apprend formatif.
Tu peux faire du team building avec.
C'est ce que disait Roberto.
Il y en a certains qui l'utilisent. Ouais. Après, moi, j'ai vécu aussi une partie où le gars, c'était sa première partie. Et il a géré le mécano, le détecteur, tout le monde. Rien qu'avec un regard, tu vois, il regardait les maps de tout le monde. Les maps de tout le monde. Moi, j'étais impressionnée. Et je lui dis, chapeau, hein, capitaine. Et c'était sa première partie, il arrivait à gérer tout le monde.
Il a quel âge, Soren ?
Il a 12
ans. Il a 12 ans.
Ouais. Parce qu'il s'est bien débrouillé. Hein. Ah, ouais. En fait, il a fait seconde avant. Et après, capitaine,
il...
Flavie. Le mécano, là, la dernière partie.
Je suis allée le voir parce que je voulais savoir comment il avait vécu sa partie. Et justement, il m'a dit, en fait, c'était bien. J'ai cru que j'allais m'ennuyer et j'ai commencé à être pas content sur la première partie. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis mis à tous vous regarder. En fait, j'ai appris le jeu. Du coup, en fait, comme il a démarré sur second, en fait, il m'a dit, j'ai d'abord énormément regardé mes canaux, ce que tu faisais. Et en fait, du coup, j'ai compris qu'il y avait un lien avec le capitaine. J'ai commencé à regarder beaucoup ce que faisait le capitaine. Et ensuite, j'ai commencé à regarder ce que faisait le détecteur. Donc, en fait, il m'a dit, j'ai appris le jeu à ce moment-là.
Moi, j'ai l'impression qu'il a tout compris au jeu à la fin. Et moi, j'ai rien compris.
Et c'était hyper, parce que moi, je suis en fait, parce que il faut savoir.
Non mais ça dénote des types d'intelligence différentes.
Non mais c'est un peu rigolo parce que en fait je suis allée le voir parce que je suis allée le coucher après mais les enfants il était tard. Ouais c'est fou. Hein. Et en fait du coup je suis allée le voir et pour avoir son retour sur le jeu et c'était un rôle assez pertinent, c'est-à-dire que il a pas dit ça comme ça mais en gros ce qu'il a dit c'est d'apprendre comment des parties forment un tout. Et donc, en fait, lui, il a essayé de comprendre comment, en gros, comment chaque partie faisait système et comment fonctionnait le système, en fait. Et il a essayé... Alors, il faut savoir qu'il veut devenir créateur de jeux, Soren. Donc, en fait, ce genre de jeu, d'expérience...
On va l'envoyer en stage chez Roberto. Tu vas aller te former à la dure.
Et du coup, en fait, son idée à Soren, c'était de dire que, en gros, sur ce type de jeu, ce qu'il trouvait intéressant, c'était, en gros, d'essayer de comprendre en fait les implications et comment ça. En gros, il a dit comment ça passe. Tu vois, il a 12 ans en fait, donc évidemment, il n'a pas d'école. Ouais. Et puis comment ça fait système en fait. Il m'a dit, mais du coup, en fait, c'est plein de petits moments et en fait, ça finit par un gros moment.
En fait, tout ça, c'est inspiré de la vraie vie. Hein. Oui.
Et bien sûr. Non,
parce
mais
que je vous dise d'où ça vient.
Oui. Il raconte.
Waouh. En fait, quand j'étais. J'ai fait mon service militaire sur un porte-avions. Les porte-avions, c'est les plus gros bateaux de la flotte. Ils font 265 mètres de long. Et je bossais sur la passerelle de navigation. La passerelle, c'est l'endroit où il y a le plus de monde. Où il y a le plus de gens qui braillent des ordres dans tous les sens.
Ouais.
Et quand on jouait à la guéguerre électronique. Et on était 15-16 sur la passerelle, à donner le barreur, les officiers qui s'occupent des avions. Et donc, moi, j'étais opérateur radio en plus, j'envoyais des messages. Et autour de moi, j'entendais des gens qui gueulaient. Ils disaient, attention, ouais, fais ci, fais ça. Et donc, il y a eu cette influence-là. Et c'était, vous n'étiez pas né, hein, c'était à l'époque, il n'y avait pas encore les radars plein jour. Les radars qui sont maintenant en couleur, c'est des écrans d'ordi, les GPS. Et donc, c'était le vieux radar avec le balayage comme ça qui tourne. Tout, tout. Tout avec l'écho, le point du bateau au milieu et les échos. Et il y avait ça. Et je me rappelle très bien que j'avais vu le capitaine demander à l'officier « Calcule-moi la route relative de ce bateau-là par rapport à celle-là. » Et à ce moment-là, il a pris un calque, il l'a mis sur l'écran et il a fait un tracé vectoriel.
Et là, tu t'es dit « Mais
c'est... » Non, mais c'est pas à ce moment-là. C'est resté enregistré. C'est ressorti. Le jeu, je ne l'ai pas créé à ce moment-là. C'était en 81.
Non mais attends, c'est marrant parce qu'on a parlé d'un autre de tes jeux avant. Juste un point, on a... C'est pour qu'est-ce qu'il
t'es
fait
né.
Christelle a dit j'étais né.
Christelle était né.
Moi c'est à une année près.
Ah d'accord, ok. On a parlé aussi d'un autre de tes jeux où donc il y a un plan et on doit dessiner, il y a une croix. Tu sais, comment il s'appelle ce jeu et tu dessines le plan en essayant d'éviter les îles.
Le Ni Quest. Non, c'est pas ça, c'est pas moi, tu parlais ça. Tout à l'heure.
y a, en gros, tu pars d'un point, donc tu as une carte devant toi, une carte avec des îles. Et toi, tu dessines sur un papier transparent.
Looney Quest. Et tu dois esquiver les obstacles.
Voilà, et
ensuite, à la fin, on met
le plaqué. Voilà, c'est ça. Et c'est pas de toi, ça.
Non, nous, on a fait une version géante de Looney Quest pour un événement qui s'appelle la fête des corsaires, où on l'a fait en grand, en 1m80 par 1m. Mais avec des îles, pour le coup.
Oui, voilà, d'accord, c'est ça. Parce que moi, j'avais joué à ça, à la fête des corsaires. Mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est toujours ce truc de... Le calque, c'est ce qu'on imagine, et la réalité, paf. Et le choc entre les deux nous amuse toujours. Il y a un côté rigolo.
Du coup, la première
idée de Captain Sonar, ça vient de ce calque posé sur ce truc.
C'est resté enregistré. Le poste de Captain, tracer la route sur une carte avec des îles, ça, c'est pas vraiment compliqué. Bah, les deux grandes idées, c'est en fait, c'est ça. C'est le calque et le poste de mécano. Le second, c'était facile aussi. Enfin, c'était facile. Et le poste de mécano, ça a été l'enfer. Et là, avec Johan, on a au moins une quinzaine de versions. Si je vous dis ce qu'on a fait, vous allez rigoler. On a fait des trucs. On a même fait des systèmes avec des dés. On devait faire les couleurs correspondantes en jetant les dés, en les posant. Il y avait des suraccidents. À un moment, on devait même faire pour la surface, c'était un château de cartes. Ouais, c'était du grand n'importe quoi. C'est la catastrophe. C'était la cata. Et en fait, on s'est vite aversé qu'il faut que tout le matériel soit unifié. Que ce soit qu'une fiche.
Non, mais c'est ça dont je voulais parler sur le matériel du coup.
Ah bah vas-y, vas-y, alors enchaîne.
En fait, moi ce que j'aime bien dans ce jeu, en fait, c'est que même si chacun a un rôle différent, en fait, on est tous sur le même bateau, vous me pardonnerez ce petit jeu de tête. Et du coup, justement, le matériel, déjà, il paraît simple. Je dis bien il paraît, c'est-à-dire fiche plastifiée, feutre, un papier calque, tu te dis ça va pas casser trois pattes à un canard, mais au final, en effet, tout le monde a finalement une fiche avec son crayon, donc en plus on peut se passer les trucs, et moi je trouve que du coup on a tous le même matériel, donc ça renforce l'esprit d'équipe en fait, puisqu'on se retrouve tous face à notre fiche, avec notre crayon, on se regarde. Il y a celui qui a le calque en plus, mais du coup il y a un côté... moi j'adore en plus les papiers et les crayons et ce genre de trucs, donc moi au moment où on me passe ça et où je vais pas avoir à jeter de dés etc, je me dis ah c'est cool, ça va être un jeu un peu différent, et j'ai beaucoup d'affection pour tous les jeux où il y a un feutre et un truc à effacer en fait, parce que je trouve qu'il y a un jeu, c'est un côté extrêmement enfantin dans cette façon de faire en fait. T'es en train d'écrire des trucs, t'effaces, je veux dire, quel gosse s'est pas amusé à tracer des trucs avec son crayon à papier et à l'effacer après, et je trouve qu'on retrouve un peu cette mécanique là en fait sur ce type de matériel. Et donc du coup à la fois on fait équipe, et à la fois il y a un côté qui va où t'es un peu, il y a un peu d'euphorie au moment où on te donne le matériel en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, d'ailleurs j'ai vu quand tu faisais ton tracé en tant que capitaine, j'avais l'impression que tu faisais un Pictionary, tu faisais un dessin, une figure. Non, c'est une blague, hein, c'est pas vrai.
Je rigole, mais j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Parce que le mécano, il a dit que je devais aller à gauche.
Ah, d'ailleurs, il y a eu une très mauvaise communication sur cette partie. J'ai honte. On a explosé en plein vol, mais vraiment, c'est auto-torpillé. Ils ont même pas eu besoin de nous attaquer.
Mais l'auto-torpillage, c'est pas de toi, c'est de Christelle.
Oui, l'auto-torpillage, c'est toi. Non, mais avant ça, on avait fait une partie où j'ai fait exploser la salle des machines parce que j'avais juste pas compris que si tout le carré était coché...
Ah bah oui, si le capitaine ne t'écoute pas, moi j'ai vu, en tant que mécano, tout a explosé. Parce que le capitaine t'écoute pas et donc t'as plein d'avaries.
Alors Florence, pour la défense de mon capitaine à ce moment-là, c'est pas qu'elle n'écoutait pas, c'est que je ne savais pas que quand tout était coché, je disais « vas-y, continue !» Et Roberto est passé derrière, il a tracé là. Toute droite dehors, c'est pas possible.
Alors, sauf une fois, on a les deux équipes ont explosé. Vous savez pourquoi ? Quand tu lances une torpille sur une case et que tu es sur la même case et que tu ne t'es pas aperçu, les deux équipes sont explosées.
Ah bah oui, parce que tu peux.
Ça peut arriver.
Alors puis même les torpilles font des dégâts autour d'elles.
Oui.
Voilà, c'est ça qu'il faut
dire.
Et
des fois, t'es à une case, tu dis « Oh, on va les avoir et tout », oui, mais toi aussi.
Ça doit quand même être rare, le double KO, je pense. Hein. Ça doit être quand même
on a failli le faire ce soir. Hein, c'était pas loin, hein, Christelle. C'est nous que t'as eu, mais en fait, si t'avais déplacé un tout petit peu plus loin, on pouvait nous avoir tous les deux.
Et c'est marrant parce que tous les gens, ils ont des stratégies différentes. Moi, ce que j'adore, c'est poser des mines au début pour dans les détroits, dans les espaces où je sens que l'ennemi va passer, et attendre patiemment qu'ils passent et les déclencher. Et même des fois faire surface pour les attirer. Et du coup, ça, c'est un petit truc que j'aime bien faire.
C'est là qu'on voit qu'il joue depuis longtemps.
Oui, il y a une stratégie qu'on n'a pas dit, c'est de ne pas jouer, en fait.
Ouais.
Ça aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé.
Mmh. Bah, en fait, tu sais ce qu'on dit quand...
C'est-à-dire d'arrêter de donner des caps.
Ouais. Ouais, tu bouges plus.
Et de voir à quel point ils sont paumés ou pas.
Mais ça, tu le fais quand tes jauges sont pleines. En fait, tout ce qu'on dit quand on fait ça, pour rigoler, on dit qu'on se pose sur le fond.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça, ouais. Ok, il y a plein de stratégies qui émergent. C'est pour ça que je te demandais
mais c'est
de la
pas dit dans la règle, tu vois. Ce type de truc, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Voilà.
Ouais,
c'est des choses qui naissent au fil de l'expérience de jeu, quoi.
Ça c'est génial quand même, je trouve, Flavie.
C'est rigolo parce que en jeu de rôle, en fait, moi je trouve que les jeux, en fait, ils sont bien faits quand il y a une partie des règles qui est décrite, mais qu'en fait il y a des systèmes de jeu qui émergent sur les règles, et c'est ce qu'on appelle le vide fertile. Et c'est une petite définition beaucoup trop rapide, mais bon, bref.
C'est pas grave, vas-y, ouais. continue.
Et en fait, je trouve que sur ce jeu, c'est ce qui se passe, en fait. Il y a des règles, mais au final, il y a tout un système de règles en sous-marin qui va apparaître, et il y a presque un contrat social de la team qui va se rajouter dessus, en fait.
Oui, c'est-à-dire qu'on va établir, en fait, le mode de fonctionnement, le modus vivendi de l'équipe, et dire, voilà, par exemple, je sais plus, à un moment donné, au début, c'était ce qui était compliqué, c'était de dire, dites OK. Je me souviens, je vois Florence encore qui dit, mais dites OK, sinon le capitaine, il ne sait pas, etc. Ça, c'est un premier élément, un modus vivendi, etc. Je suis d'accord. Non, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a de l'émergence.
Oui.
Pas forcément du vide fertile, ouais, il y a juste des choses qui émergent, des règles émergentes, en fait, des règles tacites. Mmh. Et ce qui est rigolo, c'est que chaque équipe va avoir et adopter ses propres.
Et je pense qu'à terme, si l'équipe elle continue, en fait, tu finis par avoir un système zéro de jeu.
Oui.
Qui permet, en fait, d'aller plus vite, en fait, sur certaines choses.
Tout à fait. Et l'équipe, en fait, il arrive un moment, je pense, où on arrive presque en harmonie des ombres, c'est-à-dire où l'équipe n'a même plus besoin presque de communiquer par les gestes, c'est ce que tu décrivais un petit peu, Antoine, hein, à terme, quand il y a juste quelques gestes et tout ça.
Elle
n'a
plus
ça
besoin de parler.
Non,
on ne
peut pas jouer contre les télépathes, hein, je suis désolé.
C'est pas obligé de dire OK, tu vois, tu fais juste.
C'est tellement beau. Non, mais ça doit être beau. Tu vois, je veux dire, l'autre jour, on regardait un cuisinier japonais en train de faire la cuisine avec Flavie. Il y a une précision du geste, un truc comme ça. Tout le monde apprécie le beau geste en sport. Je suis sûr qu'un jeu de société comme ça, il peut créer l'émergence de beaux gestes. T'imagines une team japonaise qui joue à ça ? Moi, j'aimerais bien voir une team japonaise jouer à ça. Quand tu vois la précision du geste et tout, l'amour qu'ils ont dans l'effectuation des actions, j'aimerais bien voir ça, tu vois. Vraiment, je pense que ça peut être spectaculaire.
L'histoire de dire OK, que ça soit validé, c'est pour le capitaine, mais c'est surtout pour le détecteur en face aussi.
Oui, tout à fait, on a eu ces problèmes.
Parce que s'il dit sud, nord, et que le matelot, le mécanicien n'a pas coché, en face, il trace la route ou pas. Tu vois,
c'est
si c'est pas validé. Sur tout le bateau, toute la team,
ouais.
le détecteur, il dit c'est validé ou c'est pas validé.
Et c'est pour ça que tu vois, si c'était encadré.
C'est pour ça que, voilà, faut que ça soit clean.
Exactement.
Des deux côtés.
Et tu vois, par exemple, dans Magic, donc moi je pense à ça parce que c'est des éditeurs qui organisent en fait des tournois hautement compétitifs où vraiment il y a parfois même du cash à gagner, donc c'est vraiment très sérieux. Là, du coup, les règles sont très bien codées entre les joueurs. Il y a vraiment un dialogue, on doit se passer la parole, c'est très codifié. Et s'il y avait des tournois type Jeux Olympiques de Captain Sonar, il y aurait des trucs qui seraient obligatoires de ce point de vue-là.
J'ai pas joué, moi j'étais en bout de table, Christelle aussi, on était en bout de table. D'abord, ça fait spectacle, moi j'adore.
Et voilà.
Et on faisait arbitre.
Et vous faisiez arbitre, effectivement.
Tu vois, aidait parce que vous connaissiez pas tout. Et, oui.
et parfois,
ça fait
tu
arbitre.
Me disais, quand j'ai joué mécanicien, je galérais, tu me disais, dis donc, Rome, t'as oublié de cocher. Enfin, c'était vraiment
oui,
bien.
Ou alors conseiller. Ouais. Fais pas ça, sinon tu vas te bloquer pendant une bonne partie
partie. Oui, tout à fait.
Le capitaine, il va t'en vouloir. Tu peux plus utiliser les drones, tu peux plus utiliser les armes pendant un certain bout de temps, jusqu'à ce qu'il fasse surface.
Ouais.
Donc c'est
une supervision comme ça, arbitrale et conseillère.
En fait, il y a les tournois qui ont déjà été organisés, principalement par les Américains, lors de conventions comme en Floride ou même sur un bateau de croisière, et où ils font que du jeu sur un paquebot. Et du coup, il y a des arbitres. à chaque fois.
Obligé.
Et ils scénarisent le truc. Il y a une bande son au début, ils font arriver les équipages, équipage de l'USS machin, génial. Équipage ceci, tintin, il y a une musique, etc.
USS Danette au rapport.
Oui, c'était le nom de notre bateau. Vous étiez quoi déjà?
On était le Flambi.
Voilà, c'est pour ça qu'on s'était appelé.
Au Brésil, on était le Capirinha avec Johan et Delphine, c'était notre marque.
C'est génial. Le jeu mériterait vraiment d'être porté effectivement comme ça, quoi, par un comité olympique ou je sais pas quoi. Ce serait vraiment très très sympa. Mais déjà le fait que l'armée puisse s'y intéresser et tout, c'est déjà une belle victoire.
Et il n'y a pas que l'armée, puisque j'ai reçu une thèse par mail une thèse sur le déchocage.
Qu'est-ce que c'est ça?
Ben, vas-y, Florence, explique.
Le déchocage, c'est quand tu as un arrêt cardiaque, y a un médecin, il peut y avoir plusieurs médecins, mais tu as un médecin qui est leader et qui va dire aux autres de quoi
on
faire.
On est en salle d'opération, il y a un arrêt cardiaque.
Non. Okay. Aux urgences ou peu importe. Aux urgences, tu as une salle de déchocage, c'est une salle de réanimation plus ou moins.
D'accord, oui.
Et il faut un leader, donc ça peut être le capitaine, tu vois. Et après, les autres doivent suivre les ordres. Tu vois, toi tu fais ci, tu mets la perfusion, tu dois mettre l'adrénaline pour relancer le cœur. Il y en a un qui va amasser, mais il faut un leader. Et c'est comme ici.
Et ils sont servis, ces quatre médecins du CHU à Lyon, ils sont servis du jeu pour leur thèse. Et c'est juste, voilà.
C'est encore du team building différent, ouais. En dehors des micros.
J'aurais imaginé ça.
Tu sais, moi quand j'ai joué au jeu, je me suis senti un peu au travail. Alors ça c'est pas une qualité pour moi par contre, parce que ça me donne pas envie d'y revenir, mais j'ai senti effectivement à côté une vraie pression, tu vois, pas une pression de jeu de société où tu prends du plaisir. Il y a des moments où je me suis dit, je sais pas si le jeu il est vraiment pour moi, je sais pas si je prends vraiment, est-ce que je suis vraiment en train de prendre du plaisir là, tu vois. Il y a des moments où j'ai hésité entre le, tu vois. Après je vois tout le monde qui s'éclate, Soren qui lève le poing, enfin j'ai des scènes là en tête, je vois bien que c'est un jeu et tout ça, mais tu vois, il y a un côté serious game en fait dans ce jeu quelque part. Ça m'étonne pas du tout de le voir justement utilisé en formation et tout ça. C'est marrant, et le jeu, au centre de plein de choses. C'est vraiment passionnant.
Après, si tu veux jouer plus calme, tu peux jouer en tour par tour. Ce jeu, on peut y jouer à un contre un, en tour par tour. Tu as les quatre fiches devant toi, l'adversaire aussi. Et
oui,
tu...
mais alors Roberto,
ça... ça n'a rien à voir.
Voilà.
Non, mais il faut savoir
là, tu fais place au gros cerveau.
Qu'il y a des gens qui préfèrent, qui n'aiment pas la partie stress, tout ça, qui préfèrent le mode tour par tour. Et c'est tout. Il y a les deux possibilités.
Toi, t'es pas du tout d'accord. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire ?
Non, mais moi aussi, bien sûr, évidemment. Je préfère le simultané.
C'est juste qu'il y a un côté, là, du coup, c'est gros cerveau, réflexion, ça va prendre du temps, les tours doivent être assez longs.
Il y a des gens que j'ai en tête contre qui je veux pas jouer.
Tu veux pas jouer, non. Ça va être trop long.
Non,
tu perds la dimension sociale du jeu.
En fait, sur toutes les cartes, là, dans la boîte de base, il y a cinq cartes. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Ils ont chacune une particularité. La carte Alpha, il y a 9 îles. La carte Bravo, il y a moins d'îles. Après, il y a Charlie, où il y a des mines qui ont été posées par une ancienne puissance que n'importe qui peut faire péter. Donc, tu peux les rajouter à celles que tu... Donc là, du coup, il y a des réactions en chaîne. Mais une fois qu'elles sont pétées, par exemple...
Parce qu'il y a des réactions en chaîne sur les mines, ouais. Aussi. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais...
Et il y a la banquise et la dernière, je crois qu'il y a encore moins d'îles. Il doit y avoir que 3 ou 4 îles.
Alors, pourquoi est-ce que c'est plus dur s'il n'y a pas... trop d'îles, et ben parce que le tracé fait, encore une fois, c'est grâce au tracé des îles et au fait qu'on fasse le tour des îles que le navigateur peut repérer le lieu où se trouve
tout ça. Ton tracé, il correspond à beaucoup plus d'endroits, moins il y a d'îles.
Et le bord de la carte est très important aussi.
Ouais. Et donc, au dos de toutes ces cartes, il y a une carte qui n'a que 4 secteurs au lieu de 9. Elle est plus petite parce que quand on joue au tour par tour, comme c'est plus long, la carte est plus petite.
Okay.
Pour que ce soit à peu près la même durée.
Ah, tu l'as réduite pour limiter justement le temps de jeu. Parce que tu avais observé des temps de jeu 20 minutes, j'imagine.
C'est ça.
Il y a écrit 45 minutes sur la boîte. C'est 45 minutes, c'est pour la première partie.
Comment tu veux. Il y a des parties qui sont terminées en 10 minutes.
C'est impossible. On est d'accord que c'est chiant ce minutage sur les boîtes.
Ouais, et puis en fait, je pense que moins il y a d'îl, plus la partie est longue aussi. Donc ça dépend aussi les cartes en fait.
Ouais. Donc c'est intéressant. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter de la campagne, est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça apporte en plus peut-être, Antoine? Pourquoi est-ce que t'es fan? Bon, écoute, toi t'as dépensé une fortune dans ce jeu.
Non. Qui t'a dans fait... les jeux de société, oui, qu'est-ce mais dans le jeu, non. Il est pas cher. Les extensions, elles sont pas chères en plus, moins de 15 euros.
Oh là là, il te fait. T'as vu un peu quand il.
Parce que c'est un jeu où tu joues à 8. C'est très rare les jeux où tu joues à 8. D'accord. T'as la The Masquerade. Là, de tête, t'as Secret Hitler. Des jeux où tu joues à 8 et vraiment où.
Le loup-garou.
Oui, le loup-garou.
Mais pas le loup-garou, voilà. Parce que pour moi, le loup-garou, quand t'es mort au premier tour, on s'amuse plus, quoi. C'est des jeux qui n'excluent pas les gens au fur et à mesure. Et je trouve que voilà, Captain Sonar, c'est un, comme on dit dans le milieu, c'est un banger.
C'est un banger.
On a 8.
Alors attends, parce que du coup, c'est parce que c'est un jeu à 8 que du coup, t'as acheté toutes les extensions. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui te plaît.
Il y a l'expérience de jeu. Quand on est à 8, bah, on sort ça forcément parce que l'expérience, elle est incroyable.
Alors pourquoi?
Parce que c'est en temps réel, parce qu'on s'y croit. Tout ce qu'on vient de dire dans les micros depuis je sais pas combien de
on
temps.
On s'y
là,
croit, ouais, d'accord. Ok.
Et tu mets les musiques. Non, on n'a pas mis les musiques ce soir.
Moi, j'avais proposé de mettre un sonar au début. Hein.
Et tu mets la lumière, tu mets des...
Et l'uniforme.
Mais oui, après, on va pas encore plus loin. Tu mets du maquillage militaire. On y va, quoi. Let's go.
En tout cas, bah, merci, hein, Roberto, de nous avoir rencontré. Est-ce que tu avais des choses à ajouter des choses dont tu voulais parler sur Captain Sonar qu'on n'aurait pas abordé? On a fait le tour.
Qu'on a fait le tour.
Il y a une suite.
Hein?
Il est prêt.
Peut-être.
En fait, sur.
Dans le vide.
Non, mais il y a plein de choses à faire. On a tenté des choses. C'est le seul truc, c'est que l'éditeur, il a du mal à suivre. Ou il n'a pas envie. Enfin, bon, c'est comme ça. Du coup, il y avait les options barreur, mais ça se fera pas. On a fait une version qui s'appelle Sonar Family, qui est sortie il y a quelques années, qui se joue à 2, 3, 4, mais pour le coup, que en tour par tour. Et là, c'est pas. C'est une jauge qui est commune à tous les systèmes, donc c'est à toi de répartir l'énergie comme tu veux pour ça ou pour ça. Il n'y a pas plusieurs jauges. Mais il est très intéressant et il est assez tactique.
On pourrait jouer avec genre un enfant plus jeune ou.
Ouais, bien sûr.
C'est
ouais.
Cool, on pourrait jouer avec notre fille en fait.
Alors quand t'es 2, 3,
4
personnes, voilà, ou un contre
du
un.
Du coup, on a.
C'est la petite bataille navale.
Non, mais d'accord. C'est quand même beaucoup mieux. Merci Florence. Et du coup, on a aussi une version duel qu'on a fait et qui fonctionne très bien, asymétrique, et qu'on aimerait bien être qu'elle soit publiée par l'éditeur un jour. D'accord. Et là, on est en train de faire une version avec un thème spatial.
Oui,
avec j'ai encore le proto à la maison.
Battlestar Galactica, moi je suis.
Mais c'est pas Captain Sonar, c'est pas Sonar Family, c'est encore un truc un peu différent.
D'accord, ok.
Parce que c'est.
En fait, tu sais pas si tu peux en parler ou pas parce que t'as envoyé le texto finalement ou pas?
Non, j'ai pas eu le temps.
T'as pas eu le temps.
Battlestar Sonar.
Attends, t'as déjà tous les.
On est prêt.
Les posts dans le Battlestar.
Non, c'est pas. C'est un jeu asymétrique aussi avec.
Comment il s'appelle ce jeu où t'as un bateau comme ça où il y a des avaries et il y a une cassette qui tourne derrière et au fur et à mesure on entend
avaries. Ah, dans l'espace.
Ouais, on avait joué avec Adrien.
Ah oui, c'est un jeu. Space Alert,
ouais. T'as déjà tenté Space Alert, tu connais un petit peu.
C'est de la programmation, c'est un truc de gros cerveau, mais avec un timer.
Ok, d'accord.
C'est de la pure programmation.
Ok. Mais c'est différent, ouais. C'est
alors,
différent.
Je rajouterais qu'il y a un autre jeu très bien de sous-marin aussi. C'est pas pour. Hein, c'est pas de la concurrence ou quoi. De toute façon, je crois que c'est disponible que en Kickstarter. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui était kickstarté à la base. Je sais pas si c'est sorti dans le commerce. Qui s'appelle U-Boat. C'est un jeu de coopération.
Ah, avec une maquette de sous-marin que tu montes.
Exactement, en 3D. Et surtout, t'as une appli pour avoir le périscope. Et du coup, sur ton téléphone, tu tournes véritablement et tu regardes à l'horizon pour voir les navires. Mais c'est un jeu de coop.
On l'avait fait, je pense.
C'est pas de la compète.
Ben on a justement, que tu parles de périscope, pour Captain Sonar à sortir et l'extension périscope où tu regardais par-dessus et trichais en regardant les positions de l'adversaire.
Ah, trop bien.
Mais non, c'est une blague. Mais non. Comment veux-tu que ce soit vrai?
Parce que moi, plusieurs fois, en fait, je me suis dit, pendant qu'on jouait, Non, j'ai besoin, il faudrait que j'ai mon miroir, tu sais, que je fasse que je remonte un peu.
Ah là là, c'est
et moi, de toute façon, les jeux où on a l'autorisation de tricher, je suis hyper fan.
Non, 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 moi, j'aime pas du tout ça. On avait testé le Mytho.
Ah, c'est, bah oui, mais t'avais détesté, mais moi, j'ai adoré.
Quel enfer, ces jeux qui critiquent les règles.
En fait, ce qu'on dit pas, c'est que dans Captain Sonar, on peut tricher. Mais comme dans plein de jeux, si on triche, c'est pas la peine de jouer.
C'est ce que disait Julie après quand je suis allé dehors pour prendre l'air. Elle me disait, mais en fait, on peut cocher n'importe quoi.
Exactement, on peut ne pas vérifier.
Oui, mais est-ce que la victoire est belle?
Mais on a remarqué un truc, c'est que s'il y a un équipage qui est vraiment bon, même si t'as omis de cocher quelques trucs de temps en temps, tu seras quand même écrabouillé. Ça change pas grand-chose, en fait.
Ouais, tu peux tricher si, en face, il y a du skill. Ouais. Après, c'est ce que tu disais, Florence, d'où la nécessité, si jamais il devait y avoir des compétitions, d'avoir vraiment un arbitrage même vidéo pour vérifier les choses. Mais bon,
dans tous les cas, quand tu vas jouer à un jeu, je veux dire, sans, quand t'es pas en mode tournoi, machin et tout, quel est l'intérêt de tricher? Ce qui est drôle dans les règles à triche, c'est parce que justement, le but, c'est d'aller briser la règle, comme dans Mytho, tu vois. Mmh. Comme s'il y a un périscope, tu vois. Mmh. C'est un peu rigolo. C'est pour ça que je me disais, ah, ce serait fun. Mais là, l'intérêt, quand tu sors ton jeu, c'est pas de tricher, c'est de faire la vraie expérience. Sinon, on s'en fout, en vrai. Enfin... Mmh.
Sauf que là, on est à 4 contre 4. Du coup, si moi, je triche pour le bonheur de mes camarades. Tu vois ce que je veux dire? Je triche pas pour moi, pour gagner moi. C'est pour faire plaisir aussi à mon équipe. Et surtout, il faut pas oublier qu'il y a une pression telle que tu peux tricher, ça va durer 2 secondes, ça va pas se voir, tu vois.
Ouais.
C'est pas un truc, c'est pas un moment où tu te poses et tu
mais
dis
là,
est-ce
en
que
vrai,
je vais tricher.
Ça doit être un peu dur. Enfin bref.
Bah, pour le mécanicien, je peux te dire que.
C'est poser la question avec Christelle. Je lance une torpille, normalement on doit vous toucher, mais il nous manque une coche.
Mm.
Et on aurait pu dire. Et à un moment, on s'est regardé hein, pendant 10 secondes. Tu me montrais, mais tu disais pas. Elle voulait pas me dire qu'il manquait à haute voix, qu'il manquait la coche, et elle me montrait.
Attends.
Et moi j'ai dit bah non, bah alors du coup non. On aurait très bien dû dire oui, bah torpille, allez go.
On était patients.
C'est marrant ça. Ok, oui, c'est vrai que c'est.
Bah, moralité, il faut pas les faire jouer ensemble.
Bah non, au contraire, parce qu'ils ont pas triché au final.
Ah bon, bah bon, ça va alors.
Et j'ai vu un tournoi à Strasbourg où un club de jeu, ils sont à fond sur Captain Sonar aussi. Ils avaient tous des casques. Pour s'entendre encore plus. Et tous les impacts, il y avait les bruits d'explosion, il y avait à l'écran, il y avait un sous-marin qui se prenait un pet. Et c'était top. Il n'y avait pas les vibrations, mais presque.
Tu vois, ce désir d'immersion et de scénarisation et tout ça, il tend à montrer qu'on est à la limite de l'expérience du GN pour moi.
Mais moi, t'en as reparlé tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai passé la dernière saison de la cellule à amener des jeux de société. D'ailleurs, je vais continuer à amener des jeux de société que je trouve dans le commerce et qui, pour moi, prouvent qu'en fait, il y a en ce moment une porosité entre les différents systèmes.
Des pieds et des mains pour qu'on arrête de faire la distinction entre jeux de société et jeux de rôle. J'ai toujours dit, le jeu de rôle est un jeu de société. Après, il y a toujours eu des gens pour faire la distinction entre jeux de rôle et jeux de plateau. Et moi je suis pas d'accord avec ça non plus, parce que je suis désolé, mais Donjons et Dragons, il y a un plateau, enfin Donjons et Dragons 4,
Donjons
y a un
et
plateau.
Dragons 4, il était plus plateau que jeu de rôle, hein.
Ouais, ça n'a aucun sens. Après bon, on s'adresse à Roberto Fraga qui souhaite pas être dans des cases, donc mais toi t'aurais jamais estampillé ce jeu là jeu de rôle, jamais tu serais arrivé.
Non, mais en fait j'ai jamais cherché à le mettre dans une catégorie.
Voilà, c'est
ça. Faut savoir que sur Board Game Geek, qui est le site US le plus important, il est estampillé Party Game.
Party Game.
Oui. Donc tu vois les catégories.
Oh là là, c'est dingue.
Parce qu'il y a ce truc-là d'être à 8. Enfin, encore une fois, je sais pas pour vous, hein, mais moi je trouve que c'est très très dur à sortir comme jeu. En tout cas, moi, dans mon cercle, être 8 personnes qui veulent jouer à Captain Sonar, parce qu'il y a ça aussi. Il y en a qui ont joué une fois et qui veulent plus, là. Tu vois, qui ont dit, oh ouais, mais c'est le truc qu'on
Ouais, alors que moi, j'ai pensé à ça pour... on a un groupe de potes avec qui, en gros, les gars, ils jouent tous à Magic et nous, on organise des teufs avec les filles pendant qu'ils font ça. Et sinon... on fait des soirées tous ensemble où on teste des jeux. Et on est 8 et on galère à trouver des jeux à 8.
Bah voilà.
Moi, je me disais avec eux...
Non, mais tu veux jouer à 6 sans problème, hein. C'est très facile de cumuler Captain et Second parce que tu donnes le cap et tu coches après, tac tac, route au nord, tac tac tac. Donc c'est
le problème, ça va être moi parce que j'ai pas aimé, hein. Ça va pas me plaire. Parce qu'en fait, moi, je le dis pas depuis le début, mais Captain Sonar, j'adore l'expérience, le jeu, je le trouve extraordinaire, très bien fait, très bien construit, etc. Mais tu vois, je sais aussi dire, bah, c'est pas une expérience pour
moi.
Non,
c'est pas pour toi. En plus, il y avait trop de bruit, je te connais.
C'est trop bruyant. Tu vois, même Pandore, elle est partie, à un moment donné, je suis parti avec elle. C'est trop, pour moi, c'est des jeux, c'est trop bruyant. Et, tu vois, il y a, mais le jeu est extraordinaire. Et en plus, je trouve qu'il émule vraiment bien, très bonne convergence et tout ça. Mais j'aimerais y jouer en fait, mais je pense que je vais quand même me refaire des parties et je vais suivre le conseil de Flavie. Cette fois-ci, je serai second. Je ferai le truc de cocher les cases.
Et fait comme Soren, ouais, il a fait dès qu'il avait coché son truc,
j'ai
il regardait
commandé,
bien.
J'ai peut-être commencé par commander et c'était peut-être trop pour moi.
Fais ce truc là et parle-en un peu à Soren parce que il a.
Tu devrais essayer Sonar Family. Pour le coup, il y a.
Essayer de progresser.
C'est beaucoup
comme
plus
ça.
Calme. Ouais.
Et je me suis posé une question aussi, est-ce qu'ils n'ont pas découvert des patterns au niveau des mécanos pour toujours
Si, dans l'extension numéro 2, Opération Dragon, il y a deux ou trois postes de mécanos supplémentaires avec des patterns différents.
Oui, parce qu'il n'y a pas des patterns connus qui permettent de minimaxer le jeu ou de.
Si, mais il y a là, tu vas devoir expliquer le système des tuyaux.
Non,
ça.
Je ne veux pas. Je veux pas je
mais
pas
oui, il y a,
ça,
oui,
là,
y a des patterns.
Il y en a deux qu'on peut utiliser, là, sud-sud, sud-est et nord-nord-nord-est. Ouais. Et l'autre, ouest-ouest-est, pour le coup, ça marche pas trop bien.
Ouais, mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait d'îles pour t'interrompre, c'est ça le truc, c'est que les îles, elles cassent aussi les patterns.
Ouais, mais les patterns, ce n'est pas la solution ultime, parce que quand je m'en sers. Eh ben, l'avantage, c'est que tu peux rapidement poser des mines et effacer, etc. L'inconvénient, c'est que ça se repère facilement.
Mmh. Et donc, plus on sait, plus on connaît, plus il y a un méta, il y a une méta des
à
patterns.
À part si tu choisis un autre mécano au début de la partie.
Ok. Putain, ça a l'air d'être. Attends, je te fous.
Il y a beaucoup de rejouabilité, en fait. C'est
oui,
ça
oui
est
non, mais c'est ça qui est ouf. Ouais. Et surtout, il y a beaucoup de marge de progression. Ouais. Et par contre, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est vraiment le joueur qui progresse. C'est ça que je trouve fascinant. C'est là que c'est comparable au sport. Dans le sport, c'est pas les règles qui progressent, c'est pas que tu comprends mieux les règles. C'est qu'en fait, en tant que joueur, tu t'améliores en fait. Et ça, c'est ça qui me fait me dire que ça pourrait être une discipline olympique pour filer cette comparaison. Merci beaucoup Roberto pour ce jeu.
Ouais,
merci d'être venu à la
cellule.
Merci beaucoup Roberto, merci beaucoup
plaisir.
Florence.
Ouais, merci à vous deux d'être venus à la cellule.
Merci d'avoir joué.
Très heureux.
Et on avait un beau spectacle encore ce soir.
Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est spectaculaire aussi. Ce qui me fait encore plaider pour une discipline olympique, parce qu'il faut que ce soit agréable aussi à voir les sports, parce qu'il y a des sponsors après. Faut de la pub, faut caler, tu vois, faut qu'on ait tous nos t-shirts.
Tu vois loin.
Bah oui. Ah bah oui, mais Roberto, je vois très loin pour toi. Je vois très loin. En tant que marin, tu dois voir loin toi aussi, en théorie. Allez, gros bisous, merci à vous deux, merci à Flavie, merci à Antoine,
merci
à tous les participants et participantes de Captain Sonar. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et on se souhaite une bonne saison de cellule.
Bon début de cellule.
Allez.
Deux.
À très bientôt tout le monde. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.